bon midi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Vous êtes à l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. On espère que vous avez eu du plaisir à écouter le Point de Max juste avant avec Max Larouche. Également, bien vous le savez, les matins, c'est Marceau le matin. Va suivre Gravel dans le retour. Saint-Denis, c'est Véro Audrey, Gab Marino cette semaine. Par la suite, Marceau le soir de 18h à 19h. Pour nous joindre en studio, 418-971-1021. Réagissez à ce qu'on dit. On aime vraiment savoir que vous êtes là et on aime connaître votre opinion. Également, blvd.fm, ça inclut la web radio et nos meilleurs moments. Le caucus avec Antonine Iaccarini qui arrive prochainement se retrouve toujours sur le blvd.fm à chaque jour après l'émission. Meilleure façon de nous écouter, l'application, parce que vous pouvez nous suivre partout. Donc, l'application BLVD 101, App Store, Google Play Store. On est également présent sur twitch.tv/BLVD/FM. Et Pascal CV, que je salue. On dit écouter BLVD sur les haut-parleurs intelligents.
Exactement, puis aussi facilement que ça en plus.
Magnifique. Donc, vous êtes avertis pour pouvoir nous écouter. Ça va bien, Pascal CV?
Ça va très, très bien. J'ai l'impression, par exemple, de jamais réussir à... J'ai l'impression de toujours oublier quelque chose ces temps-ci. L'actualité, okay. Là, ça cogne partout. Mm-hmm. C'est comme, je sais pas si vous pouvez avoir l'image dans votre tête, là. Ton petit frère, ta petite soeur, n'importe qui serait agassant, là, qui te tape sans cesse sur l'épaule. Là, tu te reviens, puis il y a tout le temps quelque chose. Là,
tout le temps quelque chose qui arrive.
Mais sans cesse, les deux petits doigts sur ton épaule. C'est ça, en ce moment, avec l'actualité. Que ce soit aux États-Unis, dans le monde, ou ici, dans n'importe quel des paliers gouvernementaux. Mm-hmm.
Yes, t'as entièrement raison et l'actualité ne fait pas défaut aujourd'hui encore une fois et il y en a un qui est dans le trouble, c'est François Legault et on va en parler avec Antonine Iaccarini dans le
caucus. Le caucus 102.1. Voici Antonine Iaccarini.
Antonine, on va parler de François Legault, mais avant ces grosses journées de budget fédéral, as-tu hâte? Écoute, il y en a un qui se pouvait plus hier, il a fait ses souliers.
C'est vraiment le moment de dévoiler les fameux souliers qui ont été faits ici à la main, les fameux souliers du ministre des Finances, qui sont les mêmes, comme je disais, qui sont portés par nos agents de la GRC à travers le pays, faits à la main ici. Puis là, je vais les essayer, je vais même le faire avec vous, vous allez voir, on va faire ça ensemble.
Hey, il les a essayés toutes, il les a faites, la vie est belle. Puis ça, c'est du quoi, Anto? C'est extraordinaire, parce que compte tenu que c'est les souliers que le ministre va porter, c'est un investissement.
C'est un investissement. Woohoo! Mais je l'ai toujours dit, du linge, c'est un investissement.
C'est un investissement.
Qui t'a cru, mettons, parce que...
Mais non. Mais...
Alors là, les souliers, c'est un investissement. Oh, c'est-tu pas beau? On va pouvoir rentrer ça dans la colonne des investissements et là, ça ne sera pas...
Mais c'est une belle tradition, tu sais. Comme aujourd'hui, t'as mis des souliers un peu funky, Antonine. Est-ce que t'avais ça en tête, toi, le budget ou
non,
pas du tout?
Non, en fait, tu veux pas savoir comment je me suis retrouvée bien de même tantôt.
Ça ne sera pas dans le déficit, les souliers du ministre? Parce que compte tenu que c'est un investissement...
Ben dans l'économie locale.
Dans l'économie locale, mm-hmm. On va mettre ça à part parce qu'on stimule l'économie, ça donne des retombées économiques. Donc, on peut dépenser à l'infini.
Ben c'est ça. Mais c'est ça que je dis quand j'achète du linge. Quand je m'achète du linge, dans le fond, t'sais, ton apparence, c'est un investissement parce que là, les gens te prennent peut-être plus au sérieux.
Beaucoup de gens en marketing diraient qu'elle a raison. Là. C'est considéré.
Ah oui, ouais.
OK, quand tu fais un budget...
Ouais.
Puis je me rappelle, là, j'ai vraiment une pensée pour mon ami Jean-François, qui était conseiller économique hein? à l'époque. Il s'appelle Jean-François, mais pas Fortin.
Ça, OK.
Et je me rappelle, on était dans une rencontre, puis on était en train de budgéter un projet qu'on voulait proposer. On était dans l'opposition, mm-hmm. Hein, tu sais, fait qu'on a le droit de tourner un petit peu les coins ronds dans l'opposition, mais pas trop non plus. Puis là, le chef en question était là, « Non, mais ça, tasse-moi ça dans la colonne. Mets-moi pas ça dans la colonne des dépenses. C'est un investissement. Ouais. » On était en train de monter un projet de transport pour Montréal, OK? Mm-hmm. Puis là, Jean-François, il disait, « C'est pas un... Il n'y a pas de telle chose qu'un investissement. Okay? » On fait de la comptabilité, il y a des dépenses, il y a des revenus. Mais il n'y a pas de dépenses que c'est pas vraiment des dépenses.
Bon, là, t'es-tu en train de me dire qu'on va vraiment être en déficit entre 75 et 100 milliards?
Je l'aime, moi, ton Jean-François.
Oui, il y a une bonne façon de résumer. Ben,
voilà, la hey, parle-moi d'une couple de tes dépenses. Parle-moi-en.
Ben, mettons un char, c'est une dépense.
Un char? Ah, oh, un char, ouais. Ça pourrait être vu comme une dépense, mais non. ça va être un investissement.
Ben non, parce que ça t'amène à quelque part.
Exactement. Donc, que... vu que ça t'amène à quelque part, puis à ce quelque part-là, ça te permet de dépenser. Il y a des retombées économiques avec ton char. Tu investis dans l'économie de ton pays.
Puis ça augmente les revenus du gouvernement. Puis après ça, il nous envoie des chèques.
Oui, parce qu'il y a des taxes sur l'essence. Il y a des taxes à l'immatriculation.
Ben justement, c'est des dépenses, Jean-François, non?
Non. T'investis dans la communauté. Après ça, on va pouvoir prendre cet argent-là, le donner à des banques alimentaires et on va nourrir les gens. Donc, ton auto, avec la taxe à l'essence que tu payes, c'est un investissement.
C'est beau, hein? C'est beau, cette nouvelle comptabilité. Moi, je trouve c'est de la comptabilité positive.
Ben oui, j'aime ça.
Ça nous met de bonne humeur.
Hey, gars, comment je suis heureux. On va avoir le plus gros déficit de l'histoire au Canada. Chut. Et je suis heureux.
C'est-tu vraiment si gros que ça, un déficit de 100 milliards? Écoute, là, aujourd'hui, une des informations qui a coulé là, de ce budget, c'est qu'il va y avoir 50 milliards pour des infrastructures. Fait que là, on est rendu dans des centaines de milliards. On pitche des chiffres comme ça, c'est extraordinaire. Et à force d'avoir fait tourner le chiffre 100 milliards pour le déficit, moi, je pense qu'on va arriver un peu en dessous. Puis là, tout le monde va être habitué. On a été vaccinés dans les derniers mois parce qu'on nous a fait miroiter qu'il y aurait de toute façon un déficit qui est énorme.
Et alors là, qu'est-ce qu'on va avoir fait du côté du Parti libéral du Canada? L'austérité! Ouais. Parce qu'on ne sera pas à 100 milliards, on va être, mettons, à 83.
Exact.
Fait que là, vous voyez comment on a pris soin des finances publiques. Les efforts qu'on a faits, c'est 17 milliards de compression.
Et puis, ces compressions-là, tu as raison, c'est l'autre chose qu'on veut surveiller aujourd'hui, outre le chiffre du déficit. Puis d'ailleurs, tu sais, même s'ils mettent ça dans des investissements, puis on sait compter, là. Je veux dire, en tout cas, moi, je ne sais pas vraiment compter, mais il y a des comptables qui savent compter, qui vont nous le dire en cours de journée, c'est quoi le chiffre final. Fait qu'on va pouvoir comparer avec les années précédentes. Je ne suis pas trop inquiète.
En passant à Annick qui écrit, vous me donnez le goût d'aller magasiner pour investir.
Investissez, les amis.
Annick, va investir. Puis si ton chum n'est pas content, Dizzy qui nous écrive, on va y expliquer la théorie Carnet Champagne.
Pas la théorie, la réalité de la comptabilité positive.
T'as raison.
C'est un nouveau concept. Puis moi,
j'aime ça, moi, parce que moi, je dis toujours que je suis good vibes only.
Et voilà.
Alors là, je suis maintenant rendu comptabilité positive.
Hein?
J'ai hâte d'expliquer ça à ma blonde.
Oui, tu me diras ce qu'elle t'a répondu.
J'ai hâte de lui dire, écoute chérie, je suis allé encourager le commerçant local, je suis allé boire 3 pintes de bière à la taverne.
J'ai investi dans l'économie locale. Et voilà.
J'aime ça.
Autre élément qu'on va surveiller, c'est effectivement l'austérité, parce qu'on va avoir un budget qui est déficitaire et austère, ce qui est vraiment pour déplaire à tout l'univers. Bon Dieu, je fais de la poésie aujourd'hui. Et ce qui fait en sorte aussi que les partis d'opposition, il n'y a personne qui va être content de ce budget-là. Parce que du côté du NPD, de voir de l'austérité, alors qu'on est très proche des syndicats notamment, puis on ne veut pas qu'on coupe dans la fonction publique. J'aimerais rappeler qu'on a rajouté 100 000 fonctionnaires au fédéral dans les dernières années. Hein. C'est incroyable. Toutes les annonces qui ont été faites par Justin Trudeau qui faisaient en sorte qu'il y avait de l'embauche de fonctionnaires.
Attends, je suis Don Davis, le chef par intérim du NPD. Couper un emploi, c'est couper les services à la population.
Hey, excuse-moi, là, mais le fédéral, c'est même pas supposé de donner des services à la population. Je suis tellement à bout de ça, là. Justin Trudeau, là, s'il s'était occupé de Postes Canada, puis des trains, puis d'Immigration Canada, puis des passeports, puis de l'Agence du revenu, au lieu de s'occuper, par exemple, de nos hôpitaux, puis de planter des arbres...
Du costumier de Radio-Canada.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, là, je veux dire, les fiascos de la bureaucratie fédérale, moi, c'est un des autres éléments par rapport à ce budget-là, puis par rapport à la différence entre Mark Carney et Justin Trudeau, c'est qu'il y a tellement un ménage à faire. Puis c'est dommage parce qu'on investit entre guillemets, dans la fonction publique en rajoutant des fonctionnaires parce qu'on fait des annonces qui sont sexy, racoleuses avec les électeurs et tout ça. Là, on fait gonfler la fonction publique de manière pas très planifiée. Puis après ça, on arrive, puis là, il faut couper. Puis là, c'est sûr que ça se fait pas toujours intelligemment, là, les coupures. Là. Puis là, ça presse, puis là, on est sur le coin de la table.
Puis on n'est pas sur le terrain au quotidien, donc on ne sait pas ça sera quoi les réels impacts aussi dans certains portefeuilles.
Absolument. Puis on devient dépendant de ces programmes fédéraux-là. Mm-hmm. Quand le fédéral décide de couper, quand Harper est arrivé au pouvoir là, en 2006, là, puis qu'il s'est mis à couper, là, ça a fait mal aux provinces parce que tu finis par être habitué d'avoir ces programmes-là et tout à coup, le besoin, on a de la misère à le faire disparaître.
Bien, la preuve là-dedans, c'est que les ministres des Finances des provinces ont demandé 100 milliards en infrastructure. Mais pourquoi les provinces ne sont pas capables de développer leur propre infrastructure?
Oui. En fait, c'est normal que le fédéral fasse des transferts parce qu'il y a un déséquilibre fiscal au Canada.
Oui, mais là, tu es de là à demander 100 milliards quand tu sais ça va être quoi l'ampleur du déficit. Là, je me dis, tabarouette,
mais justement, Jean-François, c'est pas aux provinces de payer. C'est normal qu'ils fassent cette demande-là parce que moi, je pense que les provinces, là, ce serait bien passé d'avoir toutes sortes de foleries pendant les années de Justin Trudeau, qui ont coûté une fortune. Justin Trudeau a géré comme une cigale, là, pas comme une fourmi.
Raison.
Et là, on est face à des vrais défis. On a des infrastructures partout qui sont en décrépitude.
Ouais.
On a une économie qui est mise au défi. Puis d'ailleurs, investir dans les infrastructures quand l'économie est au ralenti, c'est la chose à faire.
En effet.
Là, au Québec, étant donné le déficit d'argent fédéral en infrastructure, on a investi davantage, on s'est fait décoter. Hein, parce que le ministre des Finances s'est fait dire que
son budget
était trop... Il y avait trop d'argent qui était mis dans les infrastructures. Donc,
en même temps, il faut transformer nos infrastructures aussi parce que, veut pas, il y a les changements climatiques.
Changement climatique, adaptation au changement climatique et crise commerciale avec les États-Unis qui fait en sorte qu'on doit aller vers
ce qu'on veut pour
accélérer l'économie. Parce qu'on prévoit, les économistes prévoient des ralentissements économiques importants.
C'est vrai.
Puis, tu sais, c'est sûr qu'on revisite toutes les années Trudeau puis on se dit... On n'a pas été prévoyant.
Ah ben non, 9 ans de déficit, 9 ans de budget déficitaire, Justin Trudeau.
Et avec pandémie, avec des enjeux importants.
La pandémie, c'est une des circonstances atténuantes des déficits.
Okay? Oui.
Parce que c'est une crise sans précédent. Tous les pays ont eu à faire face. C'est vrai que des fois, on embauche plus de gens en fonction publique quand le marché
de l'emploi ralentit. Bien, c'est clair. Oui, puis il y avait tellement aussi de services à donner qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix là, d'en engager.
Mais garderie, soins dentaires, planter des arbres, commencer à vouloir s'occuper de santé mentale, toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport, que ce soit le fédéral qui gère. Et la bureaucratie fédérale, un dollar que tu mets dans la bureaucratie fédérale, c'est moins efficace que quand tu vas au niveau local.
C'est clair.
Ça devrait toujours être la dernière solution de faire des programmes qui sont gérés par le fédéral. C'est tellement loin du monde puis du terrain. Voilà.
Tu as raison.
Le prix qu'on paye en ce moment, c'est ça.
Puis en plus, avec Justin Trudeau, les programmes fédéraux sont devenus encore plus dans une entonnoir. C'est-à-dire que, OK, je vais vous donner de l'argent, mais à condition que ça soit ça, alors que le fédéral n'a pas donné de conditions, que ce soit au municipal ou au provincial.
En mettant des petites conditions tout le temps.
On a un bon texto, justement, quelqu'un qui nous dit, puis là, on faisait beaucoup de sarcasme là, avec l'investissement et tout ça, mais qui nous dit, il faudrait peut-être donner une chance au gouvernement Carney. L'homme a quand même été à la tête de la Banque centrale d'Angleterre, celle du Canada, dans des contextes extrêmement difficiles. En effet, il faut lui donner une chance.
Ben oui.
Puis en effet, il ramasse, lui, un panier de crabes laissé par Trudeau après un 9 ans d'inefficacité budgétaire.
Les conservateurs, aujourd'hui, là, après le budget, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est bien épouvantable. Puis que Mark Carney, là, il a doublé le déficit.
Puis il est comme Justin Trudeau.
Oui, ils vont dire ça. Mais dans les faits, là, c'est vrai que c'est pas lui qui a créé les conditions qui vont donner le résultat du budget qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais.
Il y a des efforts budgétaires à faire d'un côté pour baisser les dépenses puis réduire le déficit. Puis en même temps, on est face à une crise sans précédent par rapport aux États-Unis. Et les négociations piétinent. On n'a pas de résultat de ce côté-là. Puis tout ce qu'on a comme option, c'est de travailler sur l'économie intérieure, interprovinciale, puis de trouver des nouveaux marchés. Puis c'est ce qu'il est en train de faire. Puis
en
là-dessus,
effet.
Je suis assez d'accord.
Ça, ça se fait à plus long terme aussi.
Ben, c'est t'sais, ça.
Moi, j'ai
ça se fera pas en deux minutes. Là.
Non, c'est ça. Moi, j'ai tendance à être impatient. Je me dis, voyons, il a été élu le 28 avril. Comment ça, il n'y a pas encore de résultat?
Puis en plus, c'est sensible,
c'est
ça dépend des autres.
J'ai jamais vu, en fait, un gouvernement fédéral aussi réactif, pour être honnête. Parce que, tu sais, moi,
vrai.
Je faisais des jokes cet été avec Post Canada, puis je disais, en tout cas, on nous faisait des promesses encore, puis il se passait rien avec Post Canada. Puis quelques jours après, le gouvernement arrivait avec son projet de réforme de Post Canada. Et d'habitude, là, tu sais, le fédéral nous dit, ah, on est en train de regarder ça, puis trois ans plus tard, t'as aucune nouvelle, pas de son, pas d'image.
Mm-hmm.
Il y a d'autres dossiers sur lesquels c'est encore la même chose. Je regardais cette semaine, par exemple, les chauffeurs à rabais.
Hey,
ça fait déjà là, plusieurs semaines qu'on parle de ça. Du côté de Québec, on a commencé à régler la question des armes.
Avec les contrôleurs routiers.
Et les contrôleurs routiers. Mais au fédéral, il y a un bout qui leur appartient, c'est à l'Agence du revenu, qui est un fiasco total en ce moment. Ça
normalement, ça
sens.
Va faire partie là, des, du
on
budget que François-Philippe
là-dessus.
Champagne nous a dit lundi.
Oui, mais si la solution, c'est d'embaucher plus de monde à l'Agence du revenu.
Ça sera pas, c'est ça.
Honnêtement.
Non,
c'est
on
un
peut
peu
faire les choses différemment. Qui dit budget? Pour un gouvernement minoritaire, dit appui essentiel d'un parti de l'opposition. Je te laisse entendre Christine Normandin, leader parlementaire du Bloc québécois, en entrevue avec Mario Dumont ce matin. Elle remet la responsabilité sur le PLC pour peut-être des possibles élections.
Bien ça, malheureusement, le gouvernement a l'air d'avoir un peu annoncé ses couleurs. Le leader en chambre refusait de dire qu'il y avait des négociations alors que c'est son travail. Et c'est lui qui a lancé les menaces d'élection à Noël. C'est la job du gouvernement de ne pas nous envoyer en élection. Et s'il veut pas que ça arrive, bien qu'il présente un budget qui a de l'allure. Donc, de jeter l'opprobre sur les partis d'opposition, c'est comme la chose facile pour le gouvernement à faire. Mais j'ose espérer que la population comprendra que c'est au gouvernement. C'est lui qui tient le crayon du budget, là. C'est pas les opposition, c'est à lui de s'assurer que ce qu'il y a dans le budget est du bon sens. Et nous, c'est notre travail au Bloc québécois de voter pour ce qui est bon pour le Québec et contre ce qui est mauvais pour le Québec. Et ça ne changera jamais.
Je trouve que ça fait plein de sens ce qu'elle dit et je t'explique ma pensée. C'est que lorsque Mark Carney était élu dans un gouvernement minoritaire, immédiatement, les oppositions avaient raison. Les conservateurs avec Poilievre, le Bloc québécois avec François Blanchette et le NPD de ce qui en restait, ont dit « On va collaborer avec le gouvernement, on est en pleine crise économique, on ne poussera pas le gouvernement en élection, on va être patient, faut travailler ensemble, l'unité canadienne. » Puis tout ça faisait du sens le 29 avril au lendemain des élections. Mais le gouvernement a une responsabilité. C'est de pondre un budget qui va au moins satisfaire un autre groupe parlementaire. Là, on dirait que les libéraux, ils s'ajoutent. Ah ouais, on va y retourner en élection pour aller chercher notre majorité. Je me trompe-tu de penser ça?
Mais je pense que le gouvernement est très conscient que les oppositions n'ont pas envie de partir en élection.
Mais non,
donc, ils ne sentent pas la pression de négocier tant que ça avec les autres groupes parlementaires parce qu'ils ne sont pas fous puis ils voient bien là, qu'il n'y a personne qui a les moyens en ce moment de partir en élection. J'entends des gens qui disent peut-être que les libéraux voudraient, eux, aller en élection.
Oui.
Honnêtement, quelle mauvaise idée.
Bien, je pense qu'il irait s'il avait réglé la question avec Trump. Mais là, compte tenu qu'ils n'ont rien réglé avec Trump, oublie ça, ils ne peuvent pas aller en élection.
T'as quoi comme
rien,
bilan? Aucune
zéro,
garantie
zéro,
d'aller
zéro.
Chercher une majorité.
Ben, non.
Puis d'ailleurs, ça fait plusieurs gouvernements minoritaires de suite qu'on a. J'ai l'impression que nos groupes parlementaires ne sont pas capables de bien travailler en contexte minoritaire. Bon, avec Justin Trudeau, il y avait une alliance avec le NPD. Mais on n'était pas dans un mode de négociation avec tous les groupes parlementaires. On avait trouvé notre ami à qui on donnait des...
Le NPD.
D'ailleurs, il y a une partie du déficit qui leur appartient. Ben oui. Là,
vous voulez quoi? Vous voulez des soins dentaires, le NPD? Soins dentaires!
Et voilà! Fait qu'on négociait jamais avec le Bloc ou avec les conservateurs. D'ailleurs, le Bloc s'est battu l'année passée pour essayer, avec un Justin Trudeau à genoux, là, d'aller chercher des choses. Puis ils n'ont absolument rien donné au Québec.
Oui, il avait essayé pour les aînés. Ça a été un coup d'épée
puis
dans
la
l'eau.
Gestion de l'offre, là, que ça a fini par cheminer un petit peu plus tard. Mais ceci étant dit, moi, je ne vois pas l'intérêt pour les libéraux de partir en élection, mais c'est sûr que s'il y avait des élections qui étaient déclenchées parce que c'est un vote de confiance, évidemment, un vote sur le budget, bien, les libéraux, ils vont dire, bien, voyez, les groupes d'opposition ont voté contre le budget. Donc, on est dans une situation où personne n'a envie de voter pour. Les conservateurs n'ont pas intérêt à voter pour un budget avec un déficit de 90 milliards, okay? Puis ils n'ont pas d'intérêt de toute façon à voter jamais avec les libéraux. Après ça, le Bloc, c'est moins clair, pourrait vouloir collaborer. L'an passé, il y a eu de la collaboration, pas aussi formelle, mais on donnait là, une chance pour essayer d'aller chercher des gains.
Et là, c'est devenu le Bloc libéral.
Ben,
et PSPP a dit, on ne peut pas être amis avec Mark Carney, il y a eu de la chicane.
Et François Blanchet est sous pression, notamment de la part de son cousin Péquiste, pour ne pas collaborer avec Carney. Donc, on a déjà annoncé nos couleurs, on ne va pas voter pour un budget dans lequel il n'y a rien pour le Québec. Là, on va voir s'il y avoir quelque chose pour le Québec. Puis on surveille la réaction du Bloc à la sortie de la lecture du budget. Après ça, tu as le NPD. Le NPD, c'est assez de députés pour faire passer le budget. Le problème avec le NPD, c'est de voter pour un budget d'austérité. Parce qu'il y a des déficits et de l'austérité.
Il pourrait être malade le jour du vote?
Bon, donc, voilà. On en arrive aux tractations.
Parce que les épidémies de gastro, ça existe. Là.
Ben, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont le rhume ces temps-ci.
Ben, c'est ça. Puis là, leurs bureaux sont rapprochés. Fait qu'il s'agit qu'ils aient tout touché à la même poignée de porte pour aller dans le même bureau.
C'est juste qu'on les croirait pas, là, même s'il y avait une grande diarrhée fulgurante.
Ils sont sept. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'une grande salle de réunion. Ils peuvent faire une réunion dans un bureau. Fait que là, tu sais, celui qui a la gastro touché à la poignée en premier, puis le reste.
C'est rendu que tout le monde le sait, qu'il va y avoir du niaisage, d'aller aux toilettes, puis tout ça. Okay? Fait que personne, les partis sont pas
c'est
nono.
C'est vrai que t'es pas à l'abri d'un envie soudain. Hein?
Non, mais tu sais, dans les fêtes, ils vont pas essayer de nous faire à croire que c'est un hasard. T'sais, ils vont dire, nous, on pouvait pas appuyer ce budget-là, mais les Canadiens veulent pas aller en élection. Donc, on a fait un vote libre, entre guillemets. Donc, c'est ce qui risque d'arriver, mais le NPD a ouvert la porte à s'abstenir, ce qui ferait en sorte que le budget passerait.
Ouais.
Mais mettons que les libéraux étaient vraiment vlimeux puis qu'ils voulaient partir en élection, eux autres aussi, pour envoyer du monde aux toilettes. T'sais, tout peut arriver encore. Le vote devrait survenir dans les prochains jours, puis on surveille ça. Puis une autre option qui pourrait arriver, c'est que le budget, une fois qu'il passe en comité, parce que ça doit passer en comité, là, à Ottawa, dès qu'il y a un parti qui veut faire des amendements, c'est vu aussi comme un vote de confiance. Donc, on verra si on se retrouve en élection d'ici Noël, mais honnêtement, personne ne veut d'élection. Puis, je veux juste plaider pour le fait qu'il n'y ait pas d'élection. Moi, je ne fais pas partie des gens qui chialent, je veux qu'il y ait des élections. Au contraire, j'adore ça. Puis, moi, je trouve que c'est
démocratique.
Oui, puis
on fait des soirées électorales,
ben,
oui, puis on aime ça au bout. On fait plein de candidats, on check les sondages.
Mais là, on veut pas d'élection au fédéral, pas parce que nécessairement je veux absolument que Mark Carney soit maintenu au pouvoir, c'est pas ça. C'est que la Chambre des communes a été au ralenti pendant un an. Puis je pourrais mettre un petit peu plus parce qu'il y avait blocage à la Chambre des communes. Après ça, il y a eu la crise avec Justin Trudeau. Après ça, il y a eu la démission de Justin Trudeau. Après ça, il y a eu la course à la chefferie. Après ça, il y a eu l'élection. Après ça, il fallait former le Conseil des ministres. Après ça, il y a eu deux minutes de session parlementaire. Après ça, on est tombé en été.
Puis là, tu sais, je vais prendre un exemple que tu me dis. Ouais, un chauffeur à rabais, ça prend combien de temps? Mais c'est normal de prendre du temps de même, mais la Chambre n'est pas ouverte.
Puis tu sais, on pourrait se dire, ben, c'est sûr qu'en crise commerciale comme ça avec les États-Unis, la Chambre des communes, t'sais, le premier ministre fait sa job, puis ça se passe pas nécessairement à la Chambre des communes. Oui, mais à un moment donné, il faut passer des lois, il faut faire des politiques. Puis tu sais, des fois, on nous fait des annonces, puis après ça, ça chemine pas, ça avance pas, on est comme un peu sans nouvelles de certaines choses. T'sais, c'est bien beau les conférences de presse, mais après ça, est-ce que le projet de loi est adopté? Est-ce que les budgets sont alloués? Est-ce que tout ça, ça se passe aussi la Chambre des communes. Donc, je pense que les Canadiens, ils sont prêts à accepter un budget qui sera pas sexy, dans lequel ils n'auront pas de bonbons. Mais par exemple, ils s'attendent de leur Chambre des communes puis de leur gouvernement à ce que les choses avancent rondement. Puis sur le front de la crise commerciale, ben on sait qu'on contrôle pas tout. Il y a pas beaucoup de gains pour l'instant. Donc, au moins, du côté du budget, on s'attend à ce que le gouvernement Carney fasse la job quand il est question de remettre un peu d'efficacité dans la machine puis de livrer certaines choses en termes de commerce interprovincial, en termes d'infrastructure.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Antonine Iacarini, je te présente la nouvelle vedette Joe.
Alors, bonjour, je suis Isabelle Poulet. Je suis la candidate de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de La Porte. Alors, j'ai 17 ans d'expérience en politique municipale. Je fais le saut maintenant au provincial. Et 12 ans d'expérience en gestion d'organismes communautaires. Alors, je suis une personne de terrain. Mes enjeux, c'est le redéveloppement du boulevard Tachereau pour un transport structurant électrique, les logements, le soutien à domicile et le décrochage scolaire. Alors, pour tout ça, pour tous ces enjeux, le 3 octobre, on vote la CAQ.
Alors, c'est Isabelle Poulet, la députée de La Porte, qui fait parler d'elle pour la première fois après 7 ans d'élection.
Sois honnête.
Oui.
T'avais-tu déjà entendu parler d'Isabelle Poulet?
J'avais jamais entendu parler d'Isabelle Poulet. Jamais de la vie. Écoute, je suis allé voir ce qu'elle a fait à l'Assemblée nationale, puis son highlight, c'est qu'elle félicite un organisme communautaire de son coin pour ses 15 ans d'existence.
C'est ça, parce que, bon, il y a les ministres. Ouais. Après ça, tu as les adjoints parlementaires, tu as les présidents de commission. Puis après ça, il y a une couple de députés qui n'ont vraiment pas grand-chose. Ouais. Bon, mais ça en fait partie.
Ça en fait partie. Mais là, elle est devenue la vedette instantanée parce que Isabelle Poulet avait callé une conférence de presse à 9h30 pour dire « Je vais vous parler de mon avenir politique. »
D'habitude, quand on dit « avenir politique », ça veut dire « je m'en vais ».
Je sacre mon camp. OK? Et là, soudainement, à 9h21, je fais plus de conférence de presse. Et là, on apprend que François Legault veut la rencontrer. Parce que même si Isabelle Poulet, à part sa famille, pas grand monde la connaissait sur, à la colline de l'Assemblée nationale, on se ramasse pareil avec une autre personne qui pourrait quitter. Et ça, ça fera encore très mal à la CAQ et à François Legault.
Ça ajoute au supplice de la goutte. Parce que là, refaisons le bilan là, des députés qui ont quitté. Ça a commencé avec Youri Chassin. Pour des raisons de « je ne me reconnais plus dans ce parti-là ». Et c'était bien antérieur à toutes les crises qu'on connaît actuellement. Donc, c'est vraiment une question de valeur pour Youri Chassin. Après ça, ben on a eu cet automne tout ce qui a entouré le Conseil des ministres. Hein. M. Dufour, député d'Abitibi-Est, qui a été exclu, en fait, pour avoir dit que ça prendrait un ministre dans la région.
Exactement.
Puis on lui a dit « sac ton camp,
puis François Legault, il a dit « moi, je vais aller, gérer la région de l'Abitibi, puis Glenn Carver s'en allait ».
C'est ça.
Fait quand François Legault touche de quoi, finalement, ça va bien.
Ça serait vraiment juste de lui mettre ça sur le dos. Cela dit, effectivement,
Joël
ça y
Boutin,
fait ça de plus.
Fitzgibbon.
Ouais. Mais là, j'avais ça au préalable.
La forêt, mettez au complet. Là, si on prend ceux même qui se sont vus, se sont fait démissionner, tiens, disons-le comme ça, mais il y en a eu plus que 8.
Il y en a eu antérieurement, mais là, je parle de défection que les députés sont encore à l'Assemblée nationale. Ouais. Fait que là, ils sont dans un corridor. Puis là, là ils ont leur opinion. Puis là, ils se font interroger par des journalistes. Puis là, on fait du potinage avec eux autres. Ça rajoute au grenouillage. Autour du Conseil des ministres, après, on a eu François Bonnardel. François Bonnardel est très fâché de la situation.
Il n'est pas encore parti, mais il est complètement absent. Puis une personne muette comme ça, ben normalement, ça prépare un bon coup.
On s'entend. Après ça, ben, le départ fracassant de Maïté Blanchette-Vézina, qui ne se gêne pas pour dire qu'il va en avoir d'autres très critiques envers le gouvernement.
Heureuse comme indépendante. Dès que ça brasse à la CAQ, elle appelle les médias pour dire « Hey, ça me tente de parler! J'ai pas parlé pendant 7 ans! Là, ça me tente! »
Ça me tente de jaser. On en jase, comme on dit.
C'est ça.
Lionel Carman, coup très dur.
Ça a été le coup dur. Là. Ouais. Lionel Carman, un médecin qui est pas capable de défendre la loi spéciale 2 auprès de ses collègues et de sa propre famille. Tu fais « Ouais, on est dans le trouble. »
On est dans le trouble. Ça a eu un impact sur les députés. Les discussions au caucus sont très difficiles. Et là, vendredi, il y avait un brefage technique qui était organisé pour les députés par le cabinet de M. Dubé.
Ben oui.
M. Dubé n'est pas allé, mais c'était pas prévu qu'il y aille non plus. Là, c'était prévu que ce soit le directeur de cabinet puis un conseiller qui explique aux députés les détails du projet de loi sous
mais Antonine, t'es la leader de l'équipe, là. T'es la leader d'un projet de loi aussi important. Tu calls une rencontre, mais t'es pas là.
Oui, mais c'est pas lui qui l'a callé, là.
Ouais,
c'est
mais son... quand même.
C'est que.
T'sais, ça brasse. Carman vient de partir.
On s'entend. Mais Christian Dubé, il fait à peu près 52 entrevues par jour en ce moment. T'sais. Fait que moi, honnêtement, là-dessus, je vais le défendre. Je pense que les députés sentent bien que. En fait, je ne sais pas s'ils le sentent, mais nous, on va le sentir. À chaque fois qu'il y a la moindre critique ou le mécontentement, là, ça prend des proportions très, très grandes parce que la CAQ se retrouve tellement en difficulté qu'on dirait que le jello est pogné. Là. C'est crise, 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 après crise. Fait que moi, le caucus de vendredi, je prends ça avec un peu un grain de sel. Mais là, aujourd'hui, avec cette députée Isabelle Poulet qui voulait faire un point de presse, mais qui a été avortée, ça a fait évidemment beaucoup jaser. Et on entend qu'il y aurait d'autres députés qui seraient pas très contents, qui seraient en réflexion et qui ne se gênent pas pour dire qu'ils réfléchissent.
Je vais te faire écouter Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, Mario Asselin, député de Vanier-les-Rivières et Luc Provençal, député de Beauce-Nord, ce qu'ils avaient à dire à leur arrivée au caucus ce matin.
Vous êtes contente de la loi 2, là, de la loi 2. Êtes-vous mécontente de ça?
Il y a de l'amélioration à faire.
Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé avec Mme Poulet ce matin?
Non.
Est-ce que la loi 2 est facile à expliquer à vos citoyens?
Pas simple.
Comment vous l'expliquez aux gens qui
vivent là? J'embarquerai pas
là-dedans. Tout ce qui est missionnaire.
Je suis pas rendu là encore.
Luc Provençal de Beauce-Nord, je suis pas rendu là encore. Ça s'en vient, ça veut dire?
Mais c'est vraiment c'est très, très parlant, le choix des mots des députés à l'heure actuelle. Puis c'est vrai que c'est compliqué, le projet de loi 2. Okay, c'est, honnêtement, là, quand tu es député dans ton bureau, là, les appels que tu reçois, tu es aux premières lignes, hein, puis tu te fais interroger par les citoyens.
Mais là, tu sais rien, tu n'as pas d'informations, fait qu'imagine comment tu es dans
le trouble. Ils ont reçu des documents, mais tu sais, je veux dire, Jeff, on suit ça à tous les jours. Là.
Ouais.
C'est d'une grande complexité.
Ben ouais,
c'est très difficile de comprendre toutes les nuances de la rémunération pour les médecins. Pour les députés, c'est vraiment un défi. Puis surtout, l'impression générale, c'est une impression de crise, que le gouvernement a bâclé son projet de loi. Hein. C'est ça l'impression que ça nous a laissé. Puis je voyais ce matin une étude de HEC qui est sortie sur les différences de rémunération des médecins entre le Québec et l'Ontario, qui disait que ce n'est pas si avantageux pour les médecins de partir en Ontario. On le sait, ça, que les médecins sont bien payés. C'est déjà acquis. Cette guerre de relations publiques-là de la part du gouvernement, elle est déjà gagnée. Là, ce qui reste à régler, c'est que les médecins sont fâchés. On sent que tout le monde est très, très loin, très, très intransigeant, puis les patients en payent le prix. Puis l'autre élément qui reste, c'est que le projet de loi a été mal ficelé puis qu'il a été bâclé. Puis ça, là-dessus, le gouvernement, ça lui a fait perdre des plumes. Puis les députés sont aux premières loges pour devoir expliquer pourquoi ce projet de loi-là était donc nécessaire cette semaine-là, sous cette forme-là. Tu sais, il y a une vidéo qui a circulé la semaine passée. C'est les libéraux qui la faisaient circuler. C'est Marc Tanguay qui interroge le ministre de la Santé puis qui dit là, il y a une erreur dans le projet de loi. Vous mélangez les radio-oncologistes et les radiologistes. Et effectivement, ça a été adopté tel quel, puis ça avait été souligné par plusieurs journalistes. Mais tu te rends compte que les libéraux l'ont souligné pendant la commission parlementaire puis que le ministre de la Santé a rejeté ça du revers de la main. Fait que là, tu te demandes, pourquoi aller si rapidement? Pourquoi avoir laissé passer autant d'erreurs? Moi, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de place pour l'erreur. Et visiblement, les députés ont les mêmes réflexions à l'heure actuelle. Et le leadership de François Legault est de plus en plus fragilisé. Rappelez-vous, Justin Trudeau, l'année passée, C'était des députés complètement inconnus là, qui sortaient dans les médias et qui faisaient des lettres pour dire qu'il fallait que ça.
Ceux des Maritimes, d'ailleurs.
Ceux des Maritimes. Je me rappelle une députée, justement, de Brossard, dont le nom m'échappe parce que c'est la seule fois que j'ai entendu parler de ma vie, de toute ma carrière d'analyste politique, qui faisait monter, justement, l'eau d'un putsch puis de pousser le chef à la sortie. François Legault se retrouve dans la même situation. Puis on nous a tellement mis une date butoir au fait. On a l'impression que c'est la date butoir pour François Legault. Les députés le savent bien aussi. Puis on a l'impression, là, vraiment, qui se fait tranquillement pousser vers la sortie.
Vraiment. Antonine Iaccarini, chose certaine, on va avoir beaucoup de choses à parler demain. Le budget fédéral, est-ce que Mme Poulet va avoir démissionné finalement? Puis je suis certain que l'actualité va nous amener plein d'autres sujets.
Pas inquiète. À demain.
Merci pour le caucus. Pascal,
Breaking news en politique. En fait, en ce moment même, commence une mêlée de presse avec France-Hélène Duranceau de la CAQ, donc c'est Conseil du Trésor, puis Christian Dubé à la Santé. On annoncerait deux gestes de bonne foi envers deux groupes, donc la Fédération des médecins spécialistes du Québec et la Fédération en fait des médecins de famille, donc pour 10 000 médecins de famille du Québec, ça s'appelle la FMOQ. C'est une mission de veiller aux intérêts professionnels scientifiques des médecins, donc on dirait qu'on ferait un pas vers eux, mais à suivre pour ce qui sera annoncé. On est là-dedans actuellement, mêlée de presse.
Est-ce qu'on voudrait empêcher la grogne justement chez les médecins et là reprendre le contrôle un peu en disant bon, ben on va reparler avec les médecins.
Empêcher, c'est difficile. Apaiser, peut-être.
Oui, apaiser, c'est le plus bon terme, en effet.
Bien, il faut ramener les parties à se parler. Puis le projet de loi, il est adopté. Puis là-dessus, honnêtement, ça va être étonnant si on nous annonce qu'on recule sur des éléments qui sont dans le projet de loi. Là, ce que le gouvernement dit, c'est que dans les enveloppes, il reste plein de choses à négocier, puis qu'il y a des choses à faire, qu'on peut attacher des fils ensemble. Mais les médecins, tant qu'il va y avoir le projet de loi qui est adopté avec les mesures coercitives pour les empêcher de quitter, là, ils vont pas être parlants.
Bien, sais-tu, moi, c'est peut-être là-dessus que je pourrais prétendre. En même temps, là, ça va se dérouler, on va le savoir, mais geste de bonne foi, c'est-tu d'enlever justement la fameuse Gestapo?
Tu peux pas.
Parce que
faut que tu repasses un projet de loi?
Au complet.
Mais ben, faut que tu fasses un autre projet de loi. Parce qu'ils sont passés par la voie législative. Je serais hyper étonnée qu'on touche à ce qu'il y a dans le projet de loi. Puis ce que le gouvernement a dit, puis ça se peut. Là,
parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui disaient que c'était pas applicable de toute manière.
Non, c'est pas applicable. Ils se sont donné cette marge de manœuvre-là, mais ils n'allaient pas faire ça. Ils n'allaient pas le mettre en application nécessairement, mais ils ont insulté tous les médecins en mettant ça dans le projet de loi. Mais ce que le gouvernement a dit, c'est on s'est donné cet outil-là, mais on ne veut pas s'en servir. Mais les médecins sont tellement grimpés des rideaux. Là, puis on l'a entendu là, en webinaire, comment la FMSQ qualifiait le projet de loi état policier. C'est terrible, c'est le goulag, etc. Honnêtement, s'ils ne rechangent pas ce qu'il y a dans le projet de loi, là, j'ai pas trop espoir qu'on arrive à des ententes bientôt.
Ben, gars, vas-tu grâce au Breaking News de Pascal? On va avoir un troisième sujet encore à jaser.
Hey, oui,
médecin. Merci, Pascal. C'est vite, tu nous tiens au courant durant l'émission, c'est certain. Antonine Iaccarini, je sais que tu es dans le retour tout à l'heure pour parler du budget, justement. Fait qu'on t'écoute aux alentours de 17h30 avec la gang.
Exactement.
De Gravel dans le retour avec Denis en vacances. Au bout du fil, on a une excellente chroniqueuse politique en politique américaine et chercheuse associée à la chaire Raoul d'Endurant. C'est Valérie Beaudoin. Valérie, comment vas-tu?
Ça va très bien, vous deux.
Ça va super bien. Oui. Valérie, pour débuter notre entretien, je veux te faire entendre une vidéo de la nouvelle star new-yorkaise.
Today, I will be introducing the next mayor of the city of New York, Zoran Mamdani!
This is what an American political earthquake looks like.
New Yorkers are hungry for a new kind of politics, a politics that puts working people first.
The name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I.
Est-ce que Alicia Keys et Gwen Stefani ont accepté de faire prendre leur chanson?
Ah, je ne sais pas. To make history as the
first Muslim mayor. Parce que le maire Bruno Marchand avait fait accepter sa chanson par le colocas et tout ça, là.
Valérie, c'est la folie à New York. Le jeune progressiste de 32 ans, de nationalité musulmane, qui devrait normalement remporter la mairie de New York aujourd'hui.
Oui, 34 ans, alors tu l'as rajeuni.
Excuse-moi, je l'ai rajeuni un peu, je m'en excuse.
Il vient d'avoir 34 ans en octobre dernier. Mamdani, c'est un phénomène, hein, parce qu'il était inconnu il y a à peu près 6 mois, 1 an. Les gens le surnomment le Barack Obama de la ville de New York, justement parce qu'il est super charismatique, il est très, très bon en discours, même s'il n'a pas beaucoup d'expérience Il a carrément mangé tout rond Andrew Cuomo, qui est son adversaire politique là, lors des derniers débats. Et puis Mme Dany, justement, il y a une biographie assez, une vie assez particulière. Là. 34 ans, je l'ai dit, il est né en Ouganda de parents d'origine indienne. Il a habité en Afrique du Sud. Il est arrivé aux États-Unis à l'âge de 7 ans, de confession musulmane. Sa mère est cinéaste. Son père est prof à Columbia. Lui, il se décrit comme un démocrate socialiste. Ça, c'est un peu comme un Bernie Sanders, hein, qu'on connaît bien, là, qui est le démocrate du Vermont, le sénateur, mais pas démocrate, j'ai fait un petit lapsus, le sénateur du Vermont, justement, qui est indépendant parce qu'il est démocrate socialiste. Et lui veut, par exemple, le gel du prix des loyers, l'autobus gratuit partout à New York, d'avoir l'équivalent, bon, des genres de CPE qu'on a ici normalement.
Des épiceries également gérées par l'État.
Oui, aussi pour contrôler justement, pour pas que avec le problème au niveau du coût de la vie, du coût de l'épicerie, ben pour pas que les magasins en profitent, là, certaines grandes chaînes américaines. Bref, il brasse beaucoup de choses et c'est un expert des réseaux sociaux. Là, on l'a entendu avec l'extrait qu'on vient d'entendre. Là, il sait bien jouer avec les plus jeunes générations aussi.
Est-ce que c'est pour ça qu'on explique, ou du moins c'est comme ça qu'on explique sa montée? Parce qu'effectivement, cet homme-là, on en avait entendu très peu parler, à moins qu'on soit dans ces fameux canals un peu sombres des politiques. Puis je le dis pas de façon péjorative, mais plus pour des gens absolument calés là, en politique. Pourquoi est-ce que soudainement il réussit à apparaître comme ça, puis surtout se hisser sur le sommet de cette mairie-là du côté de New York? C'est-tu les réseaux sociaux? Comment on explique ça?
Bien, c'est plusieurs choses. C'est vraiment les réseaux sociaux, ça c'est le gros morceau, là, parce que c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Il y a eu plein de vidéos avec un contenu qui était viral. Le fait, lui, il était conseiller municipal dans Queens, un activiste, s'est fait connaître aussi parce qu'il a participé à une grève des chauffeurs de taxi, entre autres à New York.
Okay.
Si je ne me trompe pas, il a même fait une grève de la faim, quelque chose comme ça. Là, tu sais, il a vraiment fait des gestes d'éclat. Tu sais, vous donner un autre exemple, là, une de ses vidéos, il plonge dans l'océan glacé, là, l'océan Atlantique, là, quand il fait froid l'hiver, pour dire, moi, je suis pour le gel des loyers. Enfin, il veut vraiment aller très, très loin. Il s'est entouré de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, là, qui sont un peu, je dirais, dans la même famille politique ou idéologique. Et aussi, c'est le fait qu'il a participé à des débats avec quelqu'un comme Andrew Cuomo, l'ancien gouverneur démocrate de l'État de New York. Et quand je disais qu'il l'a mangé tout rond, là, c'était vraiment ça. Là. Le gars, il a un tout petit CV comparé à Andrew Cuomo, qui est en politique depuis quoi, plus de 30 ans. Mais il a vraiment su répondre. Et le fait qu'il cogne aux portes, qu'il va rencontrer les gens, la politique de proximité dans une aussi grande ville comme New York, ça plaît à beaucoup de gens. Il y en a qui le comparent à Donald Trump, mais pour la gauche.
C'est drôle.
Plus populiste et tout ça. Là.
C'est drôle, Valérie, parce que j'allais te demander, est-ce qu'on est justement dans cette guerre d'extrême aux États-Unis entre un Mme Dany qui est complètement à gauche de l'échiquier politique et le mouvement MAGA qui est très à droite et... Compte tenu que Trump a perdu beaucoup en popularité, ça amène les gens à se tourner vers un Mme Dany?
Ça dépend on est où. Ça dépend le contexte parce que là, tu vois, il y a d'autres élections aux États-Unis aujourd'hui. Là, c'est comme une journée avec plusieurs élections. Puis les autres candidats démocrates, par exemple, pour des postes de gouverneur, Virginie, New Jersey, c'est plus des gens au centre. C'est ça qui plaît dans ces États-là. Un Mme Dany comme gouverneur, exemple, de la Virginie, là, ça, je pense pas que ça fonctionnerait. C'est trop, justement, à l'extrême, mais Mme Dany, il fait tellement réagir, justement, le mouvement MAGA, que ça lui donne encore plus de popularité à un point tel qu'Andrew Cuomo est la personne choisie par Donald Trump. Là, c'est Andrew Cuomo, un démocrate qui a l'appui du président américain. Alors, c'est pour dire à quel point il veut pas que ce socialiste qu'il appelle le communiste islamiste, là, c'est comme ça souvent qu'il le surnomme, soit à la tête de la plus grande ville des États-Unis. Il menace même de couper les vivres à New York, là, au niveau là, de l'argent du fédéral. Donc, assez particulier tout ça, mais je pense que les gens... C'est le côté qui s'attaque vraiment à des trucs concrets. C'est le coût de la vie, l'épicerie, le loyer.
La base.
C'est ce qui a aidé Donald Trump à gagner la dernière élection face à Kamala Harris. Vraiment d'aller avec, hey, ça vous coûte cher, le prix des œufs, le prix du lait, peu importe. Mais ça, nous, on veut s'y attaquer. Donc, c'est comme un petit phénomène politique en soi qui fascine, je dirais même la planète. Là, tout le monde regarde l'élection à New York de ce soir.
Absolument. Puis, tu sais, moi, ce qui me fascine, c'est que ce soit effectivement New York. Là, c'est vraiment une autre façon, peut-être, de voir les choses qu'une frange de la population qui vit à New York fait les choses. Parce que c'est aussi reconnu comme étant l'endroit où l'économie roule. C'est là où on brasse des grosses affaires. C'est là où il y a de très grandes banques. Il y a des gens aussi qui sont toujours tournés vers la bourse à New York. Et là, on parle un petit peu plus de politique, ben, beaucoup, en fait, de politique de gauche. Y a-tu quand même deux clans qui s'affrontent à ce niveau-là? Parce que quand on parle de filets sociaux, ça plaît peut-être moins à ceux qui sont tournés un petit peu plus vers la droite économique?
Ah, il fait peur, Mme Dany, à une grande partie des gens de Wall Street, des gens plus riches de New York aussi, parce qu'il veut taxer les plus riches. Il y a vraiment une politique, ils ont peur que les gens quittent l'État de New York, carrément, ou la ville de New York, en raison de ces politiques, parce qu'ils sont beaucoup plus à gauche. Il y a certaines des politiques que c'est très à gauche aux États-Unis, mais que nous, ça pourrait être quelque chose qu'on voit ici, là. Ça dépend, il y en a qui sont encore plus à l'extrême, mais tu sais, c'est pas tout qui est vraiment d'extrême gauche, on va dire ça en guillemets, là, ou que socialiste, comment les Américains vont le définir, mais eux, ils ont tellement une politique centre-droit en général, même les démocrates, là, c'est pas Québec solidaire, là, ou c'est pas la gauche qu'on a ici, on s'entend, là, c'est vraiment beaucoup plus à droite. Donc, il fait peur à certains New-Yorkais qui se disent, ben, est-ce qu'il va trop loin, justement, avec ses politiques? Ça va être intéressant de voir, parce que s'il gagne ce soir face à Andrew Cuomo, qui est son adversaire principal, qui se présente comme indépendant, même s'il est démocrate, s'il gagne, ben, quel message envoie au Parti démocrate? Est-ce qu'on s'en va, justement, avec des candidats comme lui, qui sont plus populistes, mais qui ont des idées un peu plus extrémistes, ou on prend des gens plus au centre? Tu sais, ça va être difficile de se positionner après. Donc, ça va être très, très intéressant là, comme course ce soir.
Valérie Baudouin, tu es chroniqueuse en politique américaine. Je veux t'entendre en terminant sur la mort de Dick Cheney, cet ancien vice-président, 46e vice-président des États-Unis, sous l'ère George W. Bush, notamment là, durant les attentats du 11 septembre 2001. Et tout ce qui en est suivi. Il a été vice-président du 20 janvier 2001 au 20 janvier 2009. Qu'est-ce que tu retiens de son passage en politique américaine?
Bien, Dick Cheney, c'est à peu près le vice-président le plus connu aux États-Unis là, dans l'histoire récente. Pas pour nécessairement les bonnes raisons. Hein. Il y a des gens qui le voyaient un peu comme le mal incarné carrément. Mm-hmm. On disait que c'est lui qui tirait les ficelles en coulisses, qui contrôlait George W. Bush. C'est comme ça qu'il y en a plusieurs qui l'ont présenté. Il a été ministre, ben c'est l'équivalent, là, mais secrétaire à la défense sous la présidence de George Bush père. Il a été chef de cabinet à 34 ans seulement d'un autre président, Gerald Ford. Il a travaillé pour des compagnies pétrolières. Il a été élu aussi. Sa fille, Liz Cheney, est en politique jusqu'à il n'y a pas très, très longtemps. Une républicaine, elle aussi, qui a été à peu près les seules à s'opposer à Donald Trump. On se souvient, Liz Cheney, elle avait même participé à toute l'enquête sur la destitution possible de Donald Trump après l'assaut du Capitole en janvier 2021. Et Dick Cheney, qui je viens de vous le décrire comme à peu près l'antéchrist des démocrates, on va dire ça de même, là. Vraiment, mais finalement, c'est comme rendu un allié dans la dernière campagne électorale parce qu'il avait appuyé Kamala Harris. Lui, il trouve que Donald Trump, c'était un danger pour la démocratie. Donc, un être très complexe, très critiqué aussi parce qu'il y a eu l'invasion de l'Irak, la guerre en Afghanistan et l'invasion de l'Irak. Bon, on se souvient, les fameuses armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées. Il s'est jamais excusé de ça. Il a comme pas regretté ses gestes. Donc, ça fait partie un peu de son héritage là, comme personnage très, très, très influent à Washington pendant des décennies.
Valérie, je sais que tu as un temps très occupé, alors je te remercie d'avoir pris ces précieuses minutes avec nous. Tu peux pas savoir comment ça nous a fait plaisir.
Merci, Valérie.
Mais avec grand plaisir aussi. Bonne journée.
On se reparle bientôt. Salut, Valérie Baudouin, chroniqueuse en politique américaine et chercheuse associée pour la chaire Raoul d'Endurant. Pascal, je lève la tête. Je vois Christian Dubé et France-Hélène Duranceau parler aux journalistes. Est-ce que tu sais un peu ce qui a été dit jusqu'à présent?
Ben, on savait qu'ils voulaient poser des gestes de bonne foi envers la Fédération des médecins, puis le regroupement des médecins de famille aussi. Là, ce qu'on apprend, en fait, parce qu'ils sont en mêlée de presse actuellement, ça se déroule toujours devant nous, là, du côté de l'Assemblée nationale. Les journalistes ont le micro devant leur bouche, mais chose certaine. Ils disent pas énormément de choses. Ils veulent calmer le jeu. Le message est clair là-dessus. Ils veulent tendre la main. Est-ce que ce sera entendu? Bonne question. Mais il y a deux mesures qui ont suscité de l'inquiétude, selon eux, concernant les spécialistes reste la prime pour les rendez-vous, le 30 % aussi pour payer les frais d'honoraires dans les GMF. Puis dans les deux cas, on dit qu'on va maintenir l'état actuel de ces deux primes-là. On va laisser la prime aux omnipraticiens et aux médecins spécialistes qui vont continuer de recevoir tout ça. C'est ce qu'on tant à comprendre de la mêlée de presse actuelle. Assurément, on est dedans, là. Donc, il faut prendre l'information, puis après ça, essayer de voir comment est-ce qu'on l'applique. Mais j'ai l'impression que c'est plus une façon de dire, ben nous, on pourrait retourner à la table, mais...
Une opération de relations publiques, Pascal?
Ben oui, mais tu sais, inviter les fédérations à revenir à la table, là.
Quand il s'est fait pitcher la loi spéciale 2 par la tête,
Jeff,
tu te rends compte que ça n'a pas été bien fait.
Le rayonnement négatif de ce qui a été fait puis comment ça a été fait, là, de le faire rapidement comme ça. On se posait la question, pourquoi ça a été aussi rapide? Ça fait des semaines qu'on se pose la question.
C'est juste une question politique parce qu'on pensait faire des gains.
Ah oui, c'est ça, mais c'est là où je vais. On se disait pourquoi faire ça? Parce que officiellement, tu prends un pas de recul puis tu vois que c'est impossible. Mm-hmm. T'es pas capable de l'expliquer. Il y a du mécontentement. Tout le monde part avec sa version des faits. Je veux dire, ça joue au téléphone où on change la version, on fait nos propres calculs. Puis en plus, ben, on revient pas dans l'actualité de façon claire et concise pour passer chacun des points. C'est impossible. Il n'y a personne qui va prendre un micro de plusieurs heures. L'affaire est qu'on se demandait pourquoi il a fait ça au final. Il y a personne qui était gagnant. Puis là, on dit on veut rediscuter. Et ce qu'on veut, c'est discuter. La porte est close. Du côté des médecins, j'ai l'impression qu'ils ont tellement eu leurs émotions à vif. Ils ont tellement eu des craintes. Ils ont appelé Doug Ford au personnel pour traverser, pour certains, pour quitter le Québec. Je veux dire, on est dans l'épicentre de la sensibilité actuellement. Puis on dit, on peut-tu aller se rasseoir? C'est comme je t'envoie promener pendant des semaines et des semaines et des semaines. Puis à un moment donné, je te dis, OK, viens donc te rasseoir.
Bien, c'est ça.
T'sais, le mal
c'est
est fait.
C'est comme si j'avais mis tes meubles dehors de la maison, puis j'avais fermé la porte et j'avais changé les serrures. Mais deux semaines après, je te dis, hey, c'est-tu quoi, Pascal? Finalement, j'étais bien sur ton sofa, puis j'étais bien avec toi.
Oui. Fait qu'on va peut-être se rejaser. Si jamais nous, on tend la main, ça paraît être un geste politiquement intéressant, mais je suis certaine, c'est trop chaud encore. C'est
clairement
trop chaud.
Je suis entièrement d'accord avec toi. On va justement parler du domaine de la santé après la pause, parce qu'on a Jenny Boutet, infirmière aux soins intensifs pédiatriques, qui va venir nous jaser des problématiques qu'elle vit dans le réseau à l'heure actuelle.
Ça va être vraiment intéressant.
Rien de mieux que parler aux gens qui sont sur le plancher pour savoir ce qui se passe, et c'est exactement ce qu'on va faire après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.
Je t'envoie cet automne te chercher le meilleur café. Pourquoi? Ben parce que la rentrée, ça rentrait dedans, justement. Avec les enfants, avec le travail, peut-être des nouvelles tâches, justement. La politique qui attire notre attention dans les derniers mois. On en a vu de toutes les couleurs. Hein? Vous venez de voter, vous êtes fatigué. Noël s'en vient. Vous lui dites, wow, je vais prendre novembre pour moi. Ben Café Sobab est là pour vous. Amateur de bon café, il faut vraiment connaître Café Sobab. Pour ceux qui connaissent la famille depuis toujours, ben je sais que c'est votre rendez-vous. Surtout le week-end, hein, aller prendre une bonne marche dans Limoilou avec un foulard accompagné d'un café latté, ça fait du bien lors des belles journées. Puis chose certaine, ta machine à café, il faut l'entretenir. Il faut vraiment bien l'entretenir. Puis ce sont des professionnels, des conseils spécialisés, des formations qui sont incluses aussi pour le faire par vous-même à la maison. Et tout ça en dégustant un bon breuvage, puis peut-être en trouvant votre nouvelle torréfaction préférée. Si tu veux t'offrir la crème de la crème avec les machines espresso manuelles ou encore des machines automatiques Jura, déguster le meilleur café en ville, chaque matin dans ta chaumière confortable. Puis dans ton café, là, ben, tu peux mettre ce que tu veux par la suite puis l'agrémenter. Puis là aussi, on est là pour t'accompagner. Tu vas pouvoir découvrir la nouvelle plateforme de prise de rendez-vous directement en ligne sur cafésobab.com. Cet automne, c'est pas le temps de rebrousser chemin quant à l'achat ou le nettoyage de ta machine. Quant à avoir des conseils personnalisés, ça va changer ta tasse de café, je te le garantis. Puis ça va devenir un peu ton rituel pour te récompenser le matin avant la grosse et grande journée qui s'annonce. Si tu veux plus d'informations, va sur leur page Facebook, leur page Instagram aussi, sont super dynamiques. Peu importe la saison, Café Sobab, c'est une histoire de famille. On est là pour te renseigner, on est là pour t'accompagner puis certainement te servir comme nul autre. Sobab sur la 3e avenue à Limoilou ou cafésobab.com.
Si tu cherchais un signe pour enfin soulager tes douleurs aux pieds, eh bien, le voici. La Clinique podiatrique Beauport compte 5 podiatres qui s'occupent de traiter les douleurs aux talons, les verrues plantaires et les ongles incarnés. Occupe-toi de tes pieds. Rends-toi sur podiatrebeauport.com.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée! Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, hey, oh, Joe!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Je bouge pour être bien dans mon corps et dans ma tête, pour conserver mon autonomie, pour rester chez moi longtemps et pour continuer à jouer avec mes petits-enfants. Et bouger à mon âge, ça peut être simple. Je sors marcher dehors, je choisis parfois l'escalier plutôt que l'ascenseur ou je fais une activité qui me plaît, comme le vélo, la danse ou le tai chi. Je l'intègre à mon quotidien, pour moi et pour ceux que j'aime. Bouger plus, vieillir mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Si vous cherchez une assurance pour votre salon de coiffure, sachez que Desjardins Assurances assure les entreprises depuis plusieurs décennies. Vous vous demandez ce que ça change? Ben, imaginez si Sylvie, votre meilleure coiffeuse, faisait ça tous les jours depuis aussi longtemps.
Moi, la dernière fois, je t'ai demandé de me rajeunir un peu, mais là, j'arrête pas de me faire carter.
OK. Oh, on va te rajouter un petit 5 ans.
Non, non.
Voilà. Desjardins Assurance Entreprise, c'est pas d'hier qu'on assure. Ça, ça rassure. Demandez une soumission.
Mes amis, il est temps de dire un dernier adieu aux anciennes règles de tri. Elles emportent dans le deuil tous nos doutes devant le bac de récupération.
C'est vrai que c'était mélangeant.
Maintenant, la règle, c'est contenant, emballage, imprimé.
Donc, je peux mettre ma bouteille d'huile d'olive?
Oui, contenant.
Mon papier d'aluminium?
Oui, emballage.
Les lettres d'amour de mon ex?
Imprimé.
Dites adieu aux anciennes règles de tri. La seule à retenir, c'est contenant, emballage, imprimé. Un message de Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective.
Une sortie de famille à moitié prix? Ah! Un souper romantique à rabais.
Ah oui, mais ça dans le panier avec les autres offres.
Cet automne, ne ramassez pas juste les pommes et les citrouilles. Cueillez aussi les meilleures offres sur Mercado.fm. Mercado.fm, un verger de rabais.
À la suite d'une transaction majeure chez Soligaz, notre clientèle a doublé dans la région de Québec. On cherche donc de nouveaux livreurs pour joindre une équipe qui ne dort pas au gaz. Pour en savoir plus ou pour postuler, rends-toi au soligaz.com, section carrière.
Votre retraite vous préoccupe? Vous vivez des changements de vie importants tels un nouvel emploi, une séparation ou le décès d'un proche? Vous vous demandez si vous utilisez toutes les façons de vous enrichir, de sauver de l'impôt, de protéger vos avoirs et de maximiser vos rendements?
Je suis Marc-Antoine Reid, planificateur financier de Marceau le matin à Boulevard.
Enrichissez-vous en toute tranquillité et bénéficiez d'une deuxième opinion et d'un plan financier vivant en prenant contact avec nous dès aujourd'hui.
Équipe Marc-Antoine Reid, IG Gestion de patrimoine, cabinet de services financiers, 1-833, ton plan.
Qu'ont en commun un entrepreneur, quelqu'un qui a un grand terrain, puis un agriculteur? Ben c'est tout du monde qui aime ça siffler en travaillant fort. Et pour travailler fort, ça te prend des équipements à la hauteur de tes attentes. Ça tombe bien, JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, tient actuellement son événement d'équipement usagé. Ils ont toutes les marques. Ils offrent en plus des rabais comptants, du financement, des crédits bail et même des garanties. Ils font aussi un événement de réduction d'inventaire neuf. Fait que si tu trouves pas là, ça veut peut-être dire que tu sais pas siffler. Pour tous les détails, va sur jldlagu.com.
La vie, ça va vite. Votre solution pour des repas savoureux, frais et généreux, c'est Bouffe et Compagnie. Simple et sans abonnement. Visitez bouffeci.com.
La météo présentée par Kinatex. Aujourd'hui, raideur en hausse et bourrasque d'irritation lombaire. Kinatex Sport Physio, expert en physiothérapie et en réadaptation depuis 1982.
On en jase. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto et que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Émission d'Angers sur les ondes de Boulevard 102.1, votre émission du midi à la météo. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est une journée, là, passage nuageux, peut-être un petit peu de pluie. On est aux alentours de 10 degrés Celsius. Pour le reste de la semaine, on va être aux alentours de 6 à 8 degrés et il y aura certainement de la pluie jeudi. On vous l'a annoncé avant la pause. On a parlé justement de la situation avec les médecins, Christian Dubé et France-Hélène Duranceau, qui tendent une main, mais comme écrit un auditeur et que j'ai trouvé très pertinent sa remarque, on tend la main. Je ne suis pas médecin, mais je trouve ça insultant. Une claque derrière la tête, puis je tends l'autre main.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la bonne volonté du gouvernement. Exactement. Là-dedans, mais plutôt à essayer de ramasser les pots cassés puis à faire en sorte qu'on regarde nos gens ici dans la province, nos spécialistes, nos médecins. Donc, on essaie plutôt d'avoir un effet de rétention. Puis il y en a qui se proposent dans une réflexion en disant « Ah, ben écoute, moi, j'ai plus l'impression qu'on nous prend pour des gens stupides. » Du genre, premièrement, vous allez faire ce qu'on vous dit, puis vous n'avez pas vraiment de possibilité de dire le contraire, parce que sinon, il va y avoir des mesures coercitives. Ah, puis finalement, oh, on a peut-être été un petit peu trop chien de garde, puis on vous a peut-être un peu trop attaché. Bien là, OK, vous avez le droit de dire votre mot ou encore de commenter.
En plein ça. Et on le sait, ça fait souvent la manchette, le système de la santé qui ne va pas bien. On a justement avec nous Jenny Boutette, infirmière aux soins intensifs pédiatriques au CHU de Québec. Jenny, merci d'être avec nous.
Oui, ça me fait plaisir, good. Toujours.
Ouais, Jenny, je vais te poser la question très simple. Comment va le moral des troupes dans votre équipe?
Honnêtement, on est... Moi, sur le sujet, j'ai jamais été aussi émotive, mm-hmm. honnêtement. Les gens vont pas bien. Fait que depuis l'arrivée de Santé Québec, c'est embûche par-dessus embûche, perte par-dessus perte pour le personnel... infirmiers, entre autres, mais là, on voit les médecins, là, fait que c'est toute l'équipe. Puis j'ai jamais vu le moral aussi bas, parce que c'est tout ce qui s'en vient, puis tout ce qui est arrivé avec Santé Québec, il n'y a aucun positif là-dedans pour nous. Fait que j'ai peur. J'ai peur au système de santé comme jamais j'ai eu peur pour le système de santé.
Puis, rappelle-nous, ça fait combien de temps que tu fais le métier?
Ah, 26 ans.
Et pourtant, c'est ça, ça fait plusieurs années qu'on entend à quel point ça peut être complexe, ça peut être difficile, que justement pour les infirmiers et infirmières ou les gens qui sont sur le plancher de l'hôpital, ben à chaque fois, c'est un casse-tête de se faire imposer le temps supplémentaire obligatoire parce que t'as pas vraiment de latitude même à échanger un shift avec quelqu'un d'autre sur le plancher. Si tu refuses parce que t'as personne à la maison pour aller prendre soin de tes enfants, mettons t'es monoparental ou à un moment donné, grands-parents, les gens autour, ça fait ça a une fin pour s'en occuper à chaque jour, à chaque temps supplémentaire, bien, tu peux avoir une note à ton dossier. Après trois, tu peux perdre peut-être la possibilité de travailler dans ton métier pour lequel tu as étudié et que tu es passionné. Ça fait des années qu'on entend ça, puis ça fait des années aussi qu'on voit que les corps de travail, les tâches s'accumulent, les gens sont fatigués, il y a des risques d'erreur. Pourquoi est-ce que là, c'est pire que ça? Mais dans ma tête, ça fait 10 ans que ça fait pas de sens.
Bien, ça fait 26 ans que ça fait pas de sens. Tu sais... Hier, je pensais un peu à l'entrevue aujourd'hui, puis je me disais, tu sais, quand moi j'ai commencé ma carrière il y a 26 ans, il y a eu la retraite anticipée de plein d'infirmières. Puis après 2 ans, j'ai été en burn-out parce que dans ce temps-là, c'était les plus jeunes qui faisaient du temps supplémentaire, puis on en faisait parce qu'il y a eu un exode massif d'infirmières.
La fameuse réforme au Rochon.
Oui, absolument. Puis je me disais, quand est-ce que j'ai été bien, là, puis que, tu sais... J'avais pas mon temps supplémentaire, puis honnêtement, je m'en rappelle pas.
Donc, ça fait 26 ans que tu fais du temps supplémentaire obligatoire.
Ouais, vraiment. OK. Puis ce que je peux dire, par exemple, c'est que sur les départements où je travaille présentement, que ça va faire à peu près 20 ans que je fais des soins intensifs pédiatriques, on s'organise beaucoup entre nous, ce qui rend la situation plus vivable. Mais tu sais, on vieillit dans le temps, on a des jeunes enfants... Puis on s'organise pour que ça soit le plus vivable possible. Moi, j'appelle ça du temps supplémentaire organisé. Mm-hmm. Ça, je l'avais déjà dit.
Oui, mais là, ça compte pas dans les statistiques du temps supplémentaire obligatoire. C'est ça le Moses de problème pour vous autres. C'est qu'ils regardent votre département puis ils disent « Ben non, mon fichier Excel, moi, il me dit qu'il y en a juste 7 %, mais dans les faits, il y en a peut-être 35, 40, 45
%. » Ben absolument. Puis tu sais, c'est 3, puis c'est variable dans le temps, là, mais les grosses périodes d'hiver, c'est 4 filles sur 10 par corps de travail. C'est quasiment 50 %.
Temps supplémentaire.
Oui. Oui, puis tu sais, étant donné qu'on perd notre expertise, bien, des fois, on fait du temps supplémentaire d'expertise. Fait qu'on a des jeunes. Aux soins intensifs pédiatriques, ça prend avant d'être vraiment à l'aise. Former quelqu'un, là, all-in, là, ça peut nous prendre 1 an et demi comme il faut, là. 2 ans si on veut vraiment quelqu'un qui est à l'aise. Fait que c'est long. Fait qu'on peut avoir des nouvelles personnes, mais il faut être capable de les baquer, ces filles-là. Puis les vieilles comme moi, là, parce que je vais le dire, c'est ça, bien, on vieillit aussi. Puis ça devient difficile d'avoir toujours ça sur nos épaules. Puis quand le gouvernement arrive avec des choses comme ça, puis des choses pour dire, bien, on va tout créer des équipes volantes. Parce qu'on en avait déjà parlé aussi, le manque de reconnaissance dans les spécialités. Mm-hmm. Pour nous, c'est une catastrophe. Parce que, tu sais, moi, là, depuis 26 ans, 20 ans, je pratique à réanimer des enfants.
Ça veut dire... Qui n'est pas une tâche simple.
Qui n'est pas une tâche simple. Je veux leur sauver la vie, puis je me pratique, puis je me forme de façon continue pour ça. Je forme des nouvelles personnes, puis je les pratique pour ça. Puis c'est comme s'ils me disent, ben, on va t'envoyer l'équivalente, il n'y a pas de trouble. Comment ça, il n'y a pas de trouble? On veut les réanimer, ces enfants-là. Fait que c'est comme tout le temps... une affaire par-dessus l'autre, puis le temps supplémentaire ne se corrige pas. Les équipes volantes, c'est un non-sens dans les spécialités. Le gouvernement parle toujours des deux côtés de la bouche. Il me demande, tu sais, il nous demande de travailler sur un système de transport d'enfants pédiatriques, OK, ou de soins intensifs, où il y a une équipe qui se déploie pour que les gens de la région profitent de notre spécialité de centre tertiaire. Puis de l'autre côté, va dire que, bien, on va combler les trous avec des équipes volantes. C'est pas grave, votre spécialité. Fait que là, on sort comment de ça? T'sais, on est déjà 30 ans en retard pour des équipes de transport. Puis en plus, il me dit, bien, bon, c'est pas grave, on va combler des trous avec des équipes volantes. Ça n'a juste plus de sens.
Pour qu'on comprenne bien, une équipe volante, en fait, c'est une équipe qui va passer d'un établissement à l'autre pour, bon, prodiguer les soins puis travailler en collaboration avec l'équipe qui est un petit peu plus souvent sur place ou du moins celle qui est stable. Donc, c'est une équipe qui va avoir à faire tellement de choses différentes au quotidien qu'elle n'est plus spécialisée dans une spécialité, par exemple, avec les enfants. Oui. C'est bien ce qu'on comprend?
Oui.
Parfait. Pour les conditions aussi, on parle souvent de salaire, de temps supplémentaire et tout ça, mais il y a, je pense, des détails à côté qui peuvent chauffer une équipe, comme par exemple, stationnement, que vous n'ayez pas de conditions, que tu arrives, toi, tu travailles, tu te fais caler, mettons, si tu n'as pas de jet, puis il faut que tu sois là en 30 minutes parce qu'il y a une urgence, puis on doit opérer quelqu'un ou autre, puis on doit déployer une équipe. Mais là, il faut que tu te cherches un stationnement aux abords de l'hôpital et sinon, ben, tu le payes de ta poche à quand même un coût faramineux. Parfois, tu rentres, puis la moitié de ta paye est déjà impactée ou amputée par ton stationnement. C'est des petits détails comme ça, je pense, au quotidien également, qui sont un peu frustrants, là.
Bien, c'est irritant. Un, oui, notre stationnement nous coûte une fortune.
Ça coûte une fortune pour une visite de 2 heures, là, j'imagine pas, quand tu as un quart de travail. Là.
Oui, c'est au-dessus de 1 200 $ par année là, que ça peut nous coûter pour
un stationnement.
Ouais. Tu sais, notre cafétéria ferme à 7 heures. Fait que, tu sais, mettons, je reste en supplémentaire jusqu'à 8 heures, puis aux soins intensifs pédiatriques, c'est pas constant. Ça se peut que j'aille pas le temps d'aller manger.
Puis t'étais peut-être pas prête avec ton temps supplémentaire, t'avais pas de lunch.
Fait que j'ai pas de lunch. Fait que je mange pas ou. J'achète de quoi dans une petite salade de pâte à 14 $ dans une machine, ou je commande de quoi, ou je mange à 8h30, mais que j'arrive chez moi, si c'est à cette heure-là que je vais réussir à partir. Fait que oui, il y a tous ces petits accros-là qu'on a de surplus qui vient peser lourd. Mais ce qui pèse le plus lourd, honnêtement, c'est qu'on est là pour soigner. Puis c'est tout le temps embûche par-dessus embûche. Puis notre cœur est là-dedans, notre charge mentale est là-dedans. Puis quand tu réussis pas à faire ton travail, qui est de sauver un enfant, je dis pas qu'on le sauvera pas, mais quand t'as plein d'embûches comme ça...
Quelles sont ces embûches-là? Je pense qu'il faut que ça soit extrêmement concret pour le public. C'est comme ça qu'ils réussissent à se mettre derrière vous dans ces situations-là.
Bien, les embûches, c'est de former des gens spécialisé, puis pas toujours avoir des gens de l'extérieur qui bouchent des trous. C'est pas vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour sauver un enfant, ça prend quelqu'un qui sait comment faire. On a la cafétéria, le stationnement, ça naît aussi. Le temps supplémentaire obligé, ça crée des frictions, même si nous, on est quand même, on s'organise. À un moment donné, quand c'est ton troisième dans la semaine, il va y avoir un peu de friction. Les frictions de ça, là, on s'en vient, tu sais, challenger les médecins sur des choses qui n'ont pas de sens. Mm. Puis, il y a tout le temps, le système ne fonctionne pas. On va rajouter une couche administrative.
Enfin, je comprends Santé Québec, la bataille contre les médecins.
On se bat tout le temps.
C'est toutes des embûches que, tu sais, vous êtes sur le terrain, vous dites, quand est-ce que quelqu'un va m'aider?
Quand est-ce?
C'est démoralisant. Je me trompe-tu?
C'est absolument ça. Quand est-ce que quelqu'un va me poser la question à moi? L'infirmière, ouais. Au patient, c'est quoi que vous avez de besoin pour soigner vos patients?
Parce que là, toi, tu réanimes des enfants, puis on vient jamais te voir pour te dire, « Hey, Jenny, dis-moi non, t'aurais besoin de quoi pour être plus efficace dans ta job? »
Jamais. Jamais.
Mais on t'impose plein de choses, par exemple.
Absolument. On a eu une rencontre il n'y a pas si longtemps avec le Sick Kids à Toronto. Tu sais, je reviens un peu sur l'équipe de transport qui était
demandée.
C'est un projet gouvernemental, là. C'est eux qui nous ont demandé de faire ça. Mais tu sais, sans outils. Puis on va se le dire, là, dans le fond, on est 25 ans, 30 ans en retard sur toutes les provinces canadiennes pour du transport pédiatrique. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Puis on a parlé, on était à une rencontre, là, il n'y a pas si longtemps. Puis on voulait juste savoir, tu sais, comment on communique, comment vous communiquez. On veut être capable de s'améliorer. Bien, eux, leur système de communication, ils ont ça depuis 1980. Puis tu sais, j'étais dans la rencontre, là, puis une chance que j'étais assis. Puis je me dis à quel point c'est compliqué. À quel point qu'on veut juste soigner les patients avec des systèmes simples. On dirait que tout est compliqué. Tu avances d'un pas, tu recules de trois. Il y a tout le temps une embûche. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. C'est simple. On veut soigner nos patients de façon efficace puis sauver leur vie. C'est...
Jenny, je termine là-dessus. Les jeunes dans la profession. Et là, tu sais, je regarde les jeunes aller maintenant, puis moi, je les admire parce que ils pensent pas juste à leur job, ils pensent à leur famille, ils pensent à leurs loisirs, ils pensent à leur entraînement. Ils doivent tous vouloir sacrer leur camp.
Bien, honnêtement, je leur dis go. Tu sais, il faut prendre soin de nous. Des fois, je sais, on parle aux filles de... parle entre nous autres, on dit « Oh, oui, les jeunes, ils prennent du temps pour ça », mais honnêtement, c'est eux probablement...
Ils sont intelligents,
que...
là!
Oui, c'est eux qui ont probablement la bonne recette. Oui. Parce que quand on... Plus tard, tu sais, après 26 ans, là, c'est là qu'on se dit « Ah, oh, ouais, peut-être que là, il faudrait que je prenne le temps pour prendre du temps pour moi. »
C'est ça.
Fait qu'eux, ils ont compris tôt. Fait que je leur dis de... C'est la base. Faut que tu prennes soin de toi pour être capable de faire ta job efficace. De façon efficace. Fait que je pense que c'est eux qui ont la bonne recette, finalement.
Jenny, Vince t'écrit. Félicitations, Jenny Boutet, pour ton engagement dans le système de santé. On t'écoute et on ressent les difficultés et toute ta sincérité. Wow! Fait que,
wow, c'est vraiment gentil.
Si je peux te laisser ça en cadeau pour ton passage à Boulevard,
oui,
ça me fait
ça,
plaisir.
Merci.
On se reparle prochainement?
Oui, absolument.
Good. Prends soin de toi, mon ami. J'espère que tu vas bien aller. Donc, on fait une courte pause à Boulevard 101, l'émission d'En Jase. Par la suite, on parle avec Rémi Villemeux qui veut nous parler d'un taux de participation. C'est à Québec, ça a été élevé là, aux élections municipales. À Montréal, ça n'a pas été élevé pendant tout.
Comme si personne n'avait été réellement intéressé par ce qui se passait.
C'est ça. Fait qu'est-ce qui se passe avec notre démocratie municipale? C'est ce qu'on va parler avec Rémi Villemur après cette courte pause.
Jusqu'à 14.
Vous les attendiez, les rabais chez Pièces d'Auto Économique. En même temps, vous vous dites, ben oui, mais à longueur d'année, c'est les meilleurs prix. On le sait. Puis en plus, Pièces d'Auto Économique, c'est d'ici. C'est le leader dans la province, donc leader au Québec pour les pièces d'auto et accessoires. Mais en plus, ben, ça vient de Québec, c'est d'ici. Et pour la mise au point de ton véhicule avant l'hiver, je le sais, tu regardes ça, si c'est pas déjà fait avec Pièces d'Auto Économique, mais là-bas, t'es jamais laissé à toi-même. Si t'es un bon patenteur, si t'es un débutant dans le domaine, si t'as juste envie de changer tes essuie-glaces, puis tu sais pas comment faire, vas-y chez Pièces d'Auto Économique. La gang est là pour te guider, puis jamais on va te mettre dans le coin où on va rire de toi. Au contraire, plus on en a qui sont intéressés à ça, puis qui comprennent à quel point on économise dans ce temps-là, plus chez Pièces d'Auto Économique, on est content. On va te guider vers les bonnes pièces aussi. On te laisse pas tout seul, puis on va le faire au meilleur prix. Du vrai bon service donné par du vrai monde. Puis moi, je t'en parle parce que je suis cliente depuis des années maintenant, mais l'entretien de ton véhicule, ça passe par là. On a 20 marques de pneus, d'essuie-glaces, de batteries, d'alternateurs et bien plus. Puis là, en novembre, ce sont les soldes de novembre chez Pièces d'Auto Économique. Ça veut dire qu'on a travaillé fort pour essayer d'aller chercher les prix les plus compétitifs. Et là, ils sont ultra compétitifs. 10 % de rabais sur des disques de frein de première qualité Brake Max à forte teneur en carbone, freinage plus en douceur. Ça équivaut à ça. 20 % de rabais sur les essuie-glaces de marque Rain-X, parfait pour affronter la neige. Je te donne ma parole qu'il te faut ça. Moi, je m'en passe plus. Et là, tu as 20 % de rabais sur ces essuie-glaces-là. Cours! Et 10 % de rabais sur les plaquettes de frein Bosch, 10 % sur les batteries de marque Maison aussi, pièces d'auto économiques. Puis les rabais de novembre, c'est maintenant parce qu'on est le 4, ça commence et ça se termine ce mois-ci. Pièces d'auto économiques, grande marque, des pièces neuves garanties, les meilleurs prix, 9 magasins au Québec. Ici, à Québec, t'en as plusieurs. 5 centres de distribution puis un site transactionnel. Impossible que tu ne trouves pas. Pièces d'auto économiques ou pièceséconomique.com.
Les 7, 8 et 9...
On en jase jusqu'à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1 à venir au programme. On va avoir une entrevue avec Élanie Lepage, nouvelle conseillère municipale dans Saint-Roch-Saint-Sauveur. Mais avant, on va aller rejoindre notre chroniqueur, un de nos chroniqueurs qui est là aux deux semaines, les mardis et jeudis aux alentours de 13h, à qui on adore parler, Rémi Villemur du 99.5 Montréal. Rémi, comment vas-tu?
Ça va super bien, vous deux.
Ça va très, 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 très bien. Rémi, ici à Québec, on a pratiquement battu un record. On a eu un taux de participation le plus élevé aux élections municipales depuis 2013. Et c'est pas surprenant parce qu'on avait vu ça comme une élection tramway ou pas de tramway. Finalement, la surprise générale, Bruno Marchand, 18 conseillers, 50 % des votes. Si tu mets les pro-tramway ensemble, ça fait à peu près 60 % du vote. Fait qu'enfin, Rémi, j'ai fait un crochet. J'ai dit, je n'ai plus besoin de parler de ce sujet-là en ondes. Mais là, à Montréal, vous n'aviez pas grand sujet à parler, puis ça n'a pas soulevé passion, c'est ça que je comprends?
Ben, écoute, concernant les sujets, t'sais, ça dépend des goûts, là. Moi, je pense que c'était une élection importante et qu'il y avait beaucoup d'enjeux sérieux. Reste à voir si les enjeux les plus sérieux ont été placés au devant de la scène. Mais moi, j'ai été subjugué, le flabbergasté, quand j'ai compris que le taux de participation, qui n'est pas encore officialisé, ben, il se dessine pour être plus faible qu'en 2021. Alors même qu'on nous présentait cette élection-là comme étant une élection importante, qui allait enfin avoir. Parce que, vous rappelez, là, à la dernière élection municipale à Montréal, c'était les deux mêmes candidats qui s'étaient affrontés à l'autre élection avant, Valérie Plante et Denis Coderre. Donc, lorsque Valérie Plante s'est représentée pour l'emporter la deuxième fois, t'sais, il y avait peut-être une, entre guillemets, une bonne raison de ne pas aller voter. Parce que si vous n'étiez pas intéressé par la mouture, les deux candidats, ben, vous aviez, t'sais, vous
C'est
étiez
ça.
peut-être plus impressionné une deuxième fois. Mais là, cette fois-ci, Denis Coderre n'était pas là, Valérie Plante n'était pas là. Il y avait deux nouveaux candidats qui se présentaient et pourtant, ben, c'est ça. C'est en bas de 30, de 40 %, ça c'est sûr. Puis il y a des gens qui disent que c'est 35 %. Donc, ça serait encore plus bas qu'en 2021. Et je n'ai pas encore entendu d'explication qui me convainc. Les gens disent, bah, ben, tu sais, les élections municipales, ça intéresse moins le monde, il n'y a pas fait beau, ça devrait être en même temps que l'élection provinciale, on devrait peut-être inciter les gens à voter de chez eux. Mais je rappelle une chose, on n'arrête pas de dire, quand par exemple la CAQ va de l'avant avec des politiques identitaires, que la CAQ passe à côté de ce qui préoccupe vraiment les gens. Hein, on l'entend souvent, ça. Hein? Il y a même des sondages qui mesurent les intérêts de la population. Puis on dit, puis souvent l'opposition face à des politiques plus identitaires disent, hey, les Québécois ne veulent pas entendre parler de ça. Bien, si les Québécois veulent entendre parler d'autres choses, par exemple, du coût de la vie, du logement, de transport, pourquoi le jour des élections ne vont-ils pas voter?
Alors que c'est les sujets du municipal.
Bien, moi, je me demande, puis je m'attendais à te poser cette question-là, Rémi. Je me dis, Colin, je ne vis pas à Montréal. À un moment donné, je ne vais pas faire la fille qui regarde de loin puis commente quelque chose qu'il ne sait pas. Je vais une fois par 2 mois, peut-être. Puis je me dis, crime à Montréal, là, au sujet de l'immigration, de la. Peut-être qu'il y a des ordures, parce que moi, j'ai pogné des journées où c'était épouvantable. La circulation, les travaux, tu sais. Tout ce qui est en jeu au quotidien Montréal pullue de ça. Il y en a un puis un autre, puis ça s'est exacerbé dans les dernières années. Fait que je me dis, ah, crime, ils vont être contents, là. C'est leur place, c'est leur chance d'aller aux urnes. Ils ont chialé sur Valérie Plante pendant des années. C'est-tu parce que pour eux, ils voulaient lancer un message de il n'y avait rien qui nous était présenté qui nous satisfaisait? C'est-tu un coup d'État, si on veut, de citoyen?
Non, moi je pense que c'est parce que ce qu'on dit que le peuple aime, et il faut toujours remarquer qui dit hein, ces choses-là, qui dit que le peuple aime quelque chose, hein, ça me rappelle la phrase de René Lévesque, je me méfie des gens qui disent aimer le peuple, mais qui n'aiment rien de ce que le peuple aime. Mais quand on dit que le peuple, prenons Montréal, veut parler de logement, veut parler de route, veut parler de mobilité, mais que le jour du vote, ils ne vont pas voter parce que dans une élection, celle-ci qui vient de se produire, on n'a pas parlé de langue, on n'a pas parlé d'immigration. Ah, on n'a pas parlé de ça, là. On n'a pas parlé. Il n'y a personne qui a pris position contre les prières de rue parmi les trois partis qui étaient en lice pour l'emporter. Bien là, peut-être qu'il faut peut-être faire la dure réalisation de la réalité. Le peuple aime peut-être ce que les gens lui proposent souvent. Et regarde, la CAQ a été élue en 2018 et en 2022 sur la base de politiques identitaires. C'était la preuve qu'on voulait entendre parler de ça. Donc, peut-être que ça explique en bonne partie le manque d'intérêt pour la politique municipale à Montréal. En tout cas, je n'ai pas entendu cette explication-là, puis c'est peut-être la seule qui me convainc jusqu'à présent.
Oui, c'est un bon point, exactement. C'est que, assurément, que les candidats à la mairie, la nouvelle mairesse Soraya Martinez-Ferrada, n'ont pas été capables d'aller frapper justement sur des sujets qui vont venir soulever la passion ou qui vont venir justement créer un sentiment assez fort pour aller voter chez les Montréalais. Rémi, avant qu'on parle de Zoran Mamdani, je veux juste t'entendre sur la grève à la STM.
Oui.
Ça doit être le bordel là, dans votre ville, là. Ça n'a aucun sens. Puis en fin de semaine encore, il n'y aura pas de service samedi. Comment la population se débrouille? Parce qu'à Montréal, le transport en commun, on s'entend, c'est la source première de déplacement pour une très grande majorité de la population.
Ben, la population se débrouille pas très bien avec ça parce que c'est pas tout le monde qui a une voiture, c'est pas tout le monde qui a le courage de rouler en vélo quand il fait 1 degré, parfois en bas de 0 à l'aube. Je le sais parce que quand je vais travailler le samedi à 8 heures, j'arrive au studio à 6 heures à Griffintown, puis je pogne un vélo, je pogne l'erreur à chaque fois de prendre le vélo plutôt que la voiture, puis il fait frette. Donc, moi, j'ai une pensée pour les gens qui travaillent dans des jobs pas bien payés, des ouvriers, des proposés aux bénéficiaires, des gens qui habitent très loin de leur lieu de travail et qui doivent tout simplement prendre un taxi, prendre un Uber, qui doivent marcher, qui doivent s'arranger pour faire du covoiturage. Ces gens-là, ils sont pénalisés. Vous savez, c'est très, très, très dérangeant au niveau de la logistique d'une journée, au niveau de la planification. Puis c'est aussi très contradictoire parce qu'on n'arrête pas de nous dire que c'est l'avenir, le transport en commun. Et j'ai bien peur, moi, que cette crise-là, cette autre crise-là qui afflige la STM, ça fasse comme la pandémie, c'est-à-dire que ça change les comportements des gens. Si vous achetez une carte mensuelle qui vous coûte 90 $ parce que vous n'êtes pas étudiant puis vous n'êtes pas une personne aînée, et que là, vous venez de vous faire dire ça ne servira presque à rien, cette carte-là, et là, il y a une autre grève qui s'en vient, mettons, à un moment donné, vous allez juste dire, c'est pas compliqué, moi, je m'achète une voiture. Ou moi, regarde, je prends plus le transport en commun. Et on veut que les gens développent ces habitudes-là. Mais on l'a vu durant la pandémie que lorsqu'on change durablement, et durablement, ça veut dire de façon peut-être pendant des mois, souvent, des perspectives, les gens s'adaptent. L'être humain s'adapte et là, il va peut-être pas s'adapter dans le bon sens.
Moi, j'ai une prétention de croire qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps de s'attabler aux faits. Puis je comprends que le tribunal administratif du travail a plaidé que c'était pas quelque chose d'essentiel. Hein. Mais quand vient le temps de faire la grève, puis je comprends ces employés-là, ils ont droit d'être en désaccord avec bien des choses, leurs conditions, puis de le crier haut et fort. On est en démocratie, c'est un droit pour tous et chacun dans un certain encadrement. La chose est que ça devrait être un service essentiel. Puis là, on est rendu aussi au point à se dire que dans des fins de semaine comme ça à Montréal, quand il n'y a pas de transport en commun, quand c'est la façon d'articuler la ville, en plus que dans les constructions, on a parlé, des fois, ça te prend 15 minutes pour faire deux coins de rue, puis c'est le cas de le dire, ça vient paralyser tout ce qui est... je sais qu'on va dire, on va aller trouver toujours un chemin, mais ambulance, pompiers, policiers, la façon de faire rouler la ville est mise à risque par cette stagnation-là, cette impossibilité-là de faire tourner l'île de Montréal avec les transports en commun. Moi, ça m'inquiète aussi pour ceux qui ont que ça comme transport et qui doivent aller travailler dans les hôpitaux. Puis on l'a vu ici à Québec, il y a eu beaucoup de gens qui ont réussi par des pages Facebook à s'arranger entre eux, mais Québec n'est pas encore ce qu'est Montréal, dans le sens où on parle pas nécessairement à nos voisins, mais on se parle encore un peu plus que ce que Montréal fait, donc on essaie de s'arranger entre nous quand ça arrive. C'est un plus petit village, comme certains disent, mais moi, c'est la question demeure, pourquoi c'est pas encore un service essentiel, le transport en commun? Ça vient tellement ankyloser là, quand il vient le temps d'une grève.
Oui, puis tu sais, moi je regarde les revendications, là. Tu fais bien de le dire, Pascal, les gens ont le droit de faire la grève, ils ont le droit de faire valoir leurs droits. Hein? C'est un peu tautologique comme formule, sauf que je regarde les chauffeurs d'autobus, là, de la STM, il y en a qui gagnent près de 200 000 $.
J'allais dire, les riches...
Un autobus, là, ça devrait pas être... C'est pas chauffer un avion, là.
J'allais dire, les riches qui font la grève pour foutre le bordel aux plus défavorisés.
Ouais, les riches. Les chauffeurs d'autobus, les riches, c'est parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus payés qu'on le pense. Tu fais bien de dire les riches, parce que quand on explore, puis les chiffres sont publiés une fois par année, le temps supplémentaire, les chauffeurs, ils courent pour en faire, puis quand ils en font, ça monte à 100, 150 000 $. Puis il y a l'enjeu aussi de... La sous-traitance. Il y a beaucoup d'employés d'entretien qui disent on est écœurés que la STM engage des firmes privées. Puis Marie-Claude Léonard, qui est à la tête de la STM, s'est défendue en disant oui, mais ça prend une expertise, puis ils ne l'ont pas. Bon, j'achète un peu moins cette explication-là. Une expertise, ça se donne, ça s'apprend, ça s'enseigne. Sauf que plus vous allez en grève, moins vous donnez du sens au fait que vous plaignez que votre employeur fait appel à de la sous-traitance. Il n'y a peut-être pas le choix de faire appel à de la sous-traitance si vous êtes tout le temps en grève.
Rémi, moi, je regarde beaucoup la jeunesse. Je regarde comment elle vit, puis je me suis concentré là-dessus dans la dernière campagne électorale à Québec parce que je me suis dit, je veux voter pour un maire qui va me proposer une vision dans 15 ans pour ces jeunes-là qui vont bâtir des familles, qui vont justement faire en sorte que Québec va rayonner. Est-ce qu'à New York, on est en train de vivre un tournant justement sur comment la jeunesse veut vivre ou ce n'est que passager ce courant Zoran Mamdani?
Ah, c'est une très bonne question, mais je suis obligé de te dire, je ne peux pas répondre à ça, j'en sais rien. On verra déjà s'il est élu, puis on verra comment ça se passe, puis si dans 4 ans, les gens, ils trippent là-dessus ou s'ils ne veulent pas tout simplement s'en débarrasser. Mais moi, ce que je remarque, c'est que quand on dit que le monde est plate, puis qu'il ne se passe rien, puis que c'est du pareil au même, puis que l'histoire ne fait que se répéter, ben, y a des choses qui changent quand même au passage. New York, hein, qui est le deuxième endroit dans le monde après Israël où il y a le plus de Juifs, est sur le point d'élire son premier maire musulman, un maire qui n'a pas dénoncé le massacre du 7 octobre par le Hamas, un maire qui n'a jamais été vraiment capable de dénoncer non plus l'expression « intifada mondiale ». Donc, au-delà de la question israélo-palestinienne, c'est symboliquement, c'est assez fort quand même, parce que New York, c'est Seinfeld, c'est toute cette communauté juive qui est installée là, qui est enracinée là et qui, justement, voit arriver ce maire-là et il se dit « Ouh, peut-être que ce n'est plus ici que nous allons nous sentir en sécurité. » Il y a beaucoup de Juifs qui quittent vers la Floride depuis quelques mois déjà. Hein, il y a beaucoup de Juifs dans l'immobilier. L'immobilier, c'est un sujet qu'attaque ou enfin qu'aborde Zohran Mamdani de façon assez soutenue. Il veut geler une partie des loyers. Donc, il y a dans la sociologie new-yorkaise, dans le profil démographique new-yorkais, une transformation majeure qui est en train de s'opérer. Ça a toujours été reconnu comme étant une ville un peu inaccessible. New York, c'est la ville des riches, la ville des multimillionnaires qui habitent en hauteur. Et là, on a quelqu'un qui arrive et qui dit, ben, on va donner une parole à New York qui fourmille, New York qui vit la nuit. On verra bien ce que ça va donner.
Oui, en effet, ça va être à suivre les élections qui sont ce soir, justement, dans la grosse pomme new-yorkaise. Selon toi, il va passer, Mme Dany?
Bien, tous les sondages depuis à peu près, depuis l'été, le donnent gagnant. Donc, je ne sais pas comment on pourrait vraiment renverser la tendance. J'attire votre attention sur des soutiens qu'il a eu publiquement. Bon, il y a des gens qui disent que c'était un demi-soutien, mais Obama...
Ben oui!
S'est exprimé quand même sur cette élection-là.
Il a même dit, s'il veut des conseils, qu'il m'appelle.
Ben oui, tu sais, et le Parti démocrate traverse une crise en ce moment parce qu'il y a deux forces à l'intérieur du parti. Il y a une force qui est plus à gauche, imaginez-vous, donc à gauche dans la gauche,
oh,
ça pourrait dire une gauche radicale, c'est la gauche de Cortez. Et vous avez l'autre gauche, celle de Bernie Sanders, qui depuis des années dit que ce n'est pas une bonne idée pour les démocrates d'aller vers le wokisme, ça va leur faire perdre l'élection de 2024. On se rappelle ce qui est arrivé. Mm-hmm. Et là, ben, avec Obama qui s'en va vers Mamdani, on a l'impression que les démocrates ont choisi leur camp. S'ils l'emportent, par contre, ça va leur donner un bon vent, une bonne poussée. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas remporté quelque chose.
Oui, ça sera à suivre. D'ailleurs, Luc Laliberté, excellent chroniqueur en politique américaine, sera avec nous demain, 12h30, pour analyser ce résultat avec nous et d'autres résultats aux États-Unis. Rémi Villemur, toujours un plaisir. On se reparle jeudi aux alentours de 13h. Merci pour ta précieuse collaboration.
Bye-bye, bonne fin d'émission.
Salut, c'est Rémi Villemur, animateur au 99.5 que vous pouvez entendre avec nous à chaque mardi et jeudi aux alentours de 13h.
Moi, une chose que je surveille, Jeff, là-dedans, ouais. C'est vraiment l'utilisation des réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça me rend frileuse ces temps-ci. Puis ça me rendait frileuse, mais à rire un petit peu jaune quand nos ministres provinciaux ici à la CAQ disaient les réseaux sociaux, on les voyait danser, puis là, j'étais comme malaise. Il me semble que j'irais pas là, mais je comprends qu'il allait rejoindre des gens, mais est-ce qu'il allait rejoindre de façon efficace des gens? Là, ça, j'en doutais, puis même je défendais que non, là, bien souvent, parce qu'une danse va pas faire en sorte que tu vas chercher des votes. Ça te rend pas plus charismatique ou gentil. Aux yeux des gens, je pense, surtout si c'est pas super bien exécuté, mais... L'utilisation des réseaux sociaux, quand tu as un putsch comme ça puis que tu vas aller scinder puis chercher juste ce que tu veux qu'il soit publié, c'est au même titre que n'importe quelle personne qui se dit être attrapée par quatre fiches. Hein. Tu veux aller en date, Jeff, tu regardes les applications, la personne va avoir choisi ses meilleures photos, va avoir peut-être modifié la dite photo. Fait que tu vas arriver devant elle puis tu vas dire « OK, ben ça me prenait un peu plus d'informations pour savoir si c'était mon genre. » La montée des personnalités politiques sur les réseaux sociaux me dérange un peu plus par ça, parce que c'est pas tout le monde qui va aller plus loin.
C'est un peu plus superficiel, en effet.
Mais ça fonctionne.
Oui. On va parler avec quelqu'un de vrai, par exemple, après la pause. On va parler avec Hélanie Lepage, qui est la nouvelle conseillère municipale pour Saint-Roch-Saint-Sauveur, une jeune maman de 29 ans qui a fait campagne avec son petit gars de 2 ans. C'était beau à voir une jeune femme en politique. Donc, on parle avec elle immédiatement après cette courte pause à On en jase sur Boulevard 102.1.
Nouveau visage de Saint-Roch.
Oui.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. On va parler de ça, justement, de la revitalisation du beau quartier Saint-Roch.
On en jase. Actualité.
Boulevard.
418-971-1021 pour interagir avec nous. Il est exactement 13h35. Vous êtes à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Pascal, t'as-tu déjà entendu Audrey Pinchot faire la circulation?
Ben oui, souvent.
T'es là, des fois, elle dit « mensonge ». Bon, ben, mensonge. Tout à l'heure, j'ai dit que ça va être de l'appui jeudi, mais c'est demain. Oh...
Oui, parce que demain, on est mercredi. Tu m'as presque mêlé, là, Jeff.
Et puis demain, 5 degrés, peut-être quelques averses ce soir, 8 degrés. Et pour ce qui est de jeudi, par contre, ben là, ça va être le retour du soleil avec 4 degrés. 1 degré vendredi, peut-être avec de la neige.
Mais moi, c'est sûr que la neige, ça commence à jaser parce que je me suis fait texter par le paternel. Tes pneus d'hiver, c'est jeudi. Dans ce temps-là, écoute, il n'y a pas un âge où je vais m'en sortir. Je vais avoir 50 si mon père est encore là et j'ose espérer qu'il va me texter tes pneus d'hiver. Par contre, sur la Rive-Sud, ça a l'air assez pluvieux.
Oui, c'est
pas
ça,
si
exactement. Quelques averses là, aujourd'hui, là, d'ici la fin de la journée. Donc, on part sur une séquence de temps un petit peu plus gris, mais ça fait partie de la vie.
Là où c'est gris et sombre, je te dirais que c'est dans le dossier de la loi 2.
Tu viens de me voler les mots de la bouche, j'allais te dire, parle-moi là d'une place où c'est gris.
Ah oui, et il y a eu une mêlée presse un peu plus tôt aujourd'hui, en fait, ça fait une heure, donc c'est une nouvelle de dernière heure, mais on a fait un, on dit, pas vers les deux, vers les médecins, en fait, en suspendant deux dispositions de la loi 2. Alors, Québec, ça c'était Christian Dubé, ministre de la Santé, qui représentait la province, et France-Hélène Duranceau, Trésor, qui ont fait une mêlée de presse comme ça, qui a été annoncée à la dernière minute. Mais bien sûr, il y avait des journalistes à l'Assemblée nationale. On a capté le tout. Donc, on a fait une annonce comme quoi on va maintenir jusqu'à nouvel ordre la prime accordée aux médecins spécialistes quand ils se voient recommander un patient par un omnipraticien. La dite prime devait être abolie. Donc, l'argent utilisé à d'autres fins. Et là, stand-by, en fait, on n'utilise pas cette façon de faire-là de la loi 2. La seconde mesure qui concerne le supplément du 30 % qui est accordé aux médecins des groupes de médecine familiale, là, les GMF, pour payer leurs frais administratifs que le gouvernement souhaitait verser directement au GMF, là. Bien, le dit supplément, pour l'instant, ça va continuer d'être payé aux médecins. Ça ne sera pas versé au GMF. Donc, sortie qui survient assez rapidement dans toute cette sensibilité-là et je dirais cette grande chaleur entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec puis la Fédération des médecins spécialistes du Québec, ajoutons à ça Fédération médicale étudiante du Québec. On a entrepris, du côté de ces trois fédérations-là, de contester la loi 2 devant les tribunaux et on a déposé d'abord trois demandes de sursis. Peut-être qu'on essaie d'amenuiser un peu ce qui se passe puis surtout de tendre la main. Du moins, c'était le discours. On veut retourner à la table. On veut rejaser avec vous. On a des conditions là, pour retourner négocier, c'est ce qu'on dit par rapport aux dernières minutes là, en ce qui a trait aux fédérations. Mais je te dis, Jeff, c'est tellement sensible en ce moment qu'il n'y a personne qui arriverait là avec une grande ouverture d'esprit.
Non, je ne penserais pas. J'ai entendu le docteur François Amiot sur les ondes de Mario Dumont ce matin. Puis, il n'y a pas grande ouverture envers le gouvernement. Christian Dubé. Ça ne sera pas une conversation cordiale.
À côté de ça, un divorce où il y a eu adultère est beaucoup plus doucereux. Non, c'est pas facile. Sinon, ce que je peux te dire aussi par rapport à l'actualité, c'est la faiblesse de l'opposition fait craindre à Villeneuve une dérive autoritaire. Ça, ça roule depuis le début de la journée.
Il va falloir en parler avec Hélanie Lepage, là, qui est là pas loin de nous, la dérive autoritaire.
C'est un peu pour ça que je voulais revenir sur cette nouvelle-là, que je l'ai nommée. Mais oui, le chef de Québec, d'abord, Claude Villeneuve, s'inquiète de voir que il n'y aura pas assez d'opposition, du moins, il ne sera pas bien fait à l'Hôtel de Ville, au point où les risques de dérive du maire réélu Bruno Marchand pourraient être, selon lui, véridictes.
J'aime beaucoup Claude Villeneuve, mais peut-être que s'il a fait une meilleure campagne électorale, il y aurait plus d'opposition.
Écoute, tout le monde a le droit à son commentaire.
Au sport, Pascal, là, tu sois énervé, Canadien Flyers ce soir.
Ah, moi, j'aime un peu.
On sait même pas si c'est encore Dobesch ou Montembeau pour gros.
Ça, c'était pas Montembeau, ça peut être annoncé plus tôt.
Ben non, Montembeau, c'était samedi.
Ouais, non, mais là, là.
Au moins, ça s'est annoncé, il va falloir que j'aille vérifier.
Ben, je pense que tu devras, là, parce que moi, c'est pas ce que j'ai entendu, à moins que je vous dise n'importe quoi. Et dans la nouvelle sur le Canadien de Montréal, ça pourrait être ça.
Ouais, c'est ça. Elle est avec nous en studio, Hélanie Lepage, nouvelle conseillère municipale pour Saint-Roch, Saint-Sauveur. Montembeau ou Dobesch?
Dobesch.
C'est temps-ci. C'est temps-ci, il goûte mieux. Hein? Ouais. T'es d'accord. Ton chum, suis-tu l'hockey?
Oui, beaucoup. Toi aussi, plus à cause de lui, maintenant. Mais mon chum et mon garçon, ils aiment bien ça que t'es l'hockey.
Cool. J'adore ça. Moi, ma blonde, j'ai lâché des gilets du Canadien à mes garçons, puis j'ai haï le Canadien.
Faites une croix sur le calendrier, Montembeau, c'est
confirmé.
Écoute, quand je t'ai dit que j'ai une oreille à capter, heureusement pour vous, je l'avais capté pour le Canadien.
On revient avec le Québécois Montembeau. Et Lali, est-ce que tu es descendu de ton nuage ou tu es encore dessus?
Je suis encore dessus. J'ai pas redescendu. J'ai reçu des centaines de messages. Je réponds encore. Vraiment gratifiant.
Ouais. Tu as gagné par une très grande majorité dans le district de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Puis on a parlé de Saint-Roch et Saint-Sauveur en mal, pas à peu près, dans les dernières années avec le maire Marchand. Comment t'expliques ça?
Bien, je pense que les gens, ils ont vu qu'on avait une vision positive, malgré tout, du secteur. On est tout à fait conscients, réalistes par rapport aux crises qu'on voit. On ne s'est pas caché, on en a parlé. J'ai fait des entrevues aussi pendant la campagne électorale, juste avant, pour en parler, pour dire ce que nous, on a à proposer. Et les gens y ont adhéré. On m'a beaucoup parlé du fait que je menais une campagne qui était positive, que c'était rafraîchissant, que ça faisait du bien. Et je pense que j'étais capable de rassembler les citoyens.
Bienvenue en politique, Eleni. Alors, ma question sera, est-ce que vous pensez que ça, c'est attribuable à vous et au parti? Ou c'est attribuable peut-être au fait que toi, t'es rafraîchissante, que t'es arrivée dans le paysage politique, que les gens ont fait comme, ah, c'est qui elle? Elle s'implique, elle connaît le quartier, elle revient et semble avoir des propositions versus peut-être les autres partis où c'était un petit peu plus houleux. Effectivement, c'est une campagne qui a été profitable à Bruno Marchand dans le contexte, dans le ton. Est-ce que vraiment ça vous appartient, ça, ou ça t'appartient?
Moi, au centre-ville, je me le cache pas, je l'ai pas volé. Dans le sens où j'ai travaillé extrêmement fort. Puis oui, je suis nouvelle dans le paysage de politique active, mais je suis pas nouvelle dans le paysage du quartier que je vis depuis 6 ans. Je côtoie les organismes, je côtoie mes voisins, je connais les commerçants. J'étais pas nouvelle là, pour bien du monde.
Ouais, quand t'as cogné aux portes, ils ont pas fait « c'est qui, elle? »
Il y en a, mais parce que c'est quand même 17 000 électeurs, mais... Il y a beaucoup de familles que je connaissais déjà dans le secteur et j'ai travaillé extrêmement fort. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai dû faire comme 7000 portes, j'ai dû faire des milliers de téléphones, j'ai fait des cinquantaines de rencontres avec des commerçants puis des organismes, des acteurs du milieu. Fait que oui, effectivement, il y a eu un contexte à l'extérieur du centre-ville, parce que nous, au centre-ville, je vous dirais que mes adversaires principaux, il y avait Transition Québec, Marjorie Champagne, qui a fait une incroyable campagne. On s'est beaucoup côtoyés sur le terrain. Dans le centre-ville, on a mené une campagne extrêmement positive et j'en suis très fière. On n'est pas allé dans le personnel, on est resté sur la vision, on est resté sur... Il y a bien des valeurs sur lesquelles on se rejoignait. Il y a Quentin Marida aussi de l'équipe de Claude Villeneuve qui a fait une super campagne. Donc, ma réalité au centre-ville n'était pas la même que la campagne ailleurs, en ville. Tu sais, je parle bien du contexte, là, Monsieur Hamad, Monsieur Lachance. Ça ne résonnait pas beaucoup chez nous.
Je te transporte 29 ans, je te transporte dans 4 ans quand tu vas te présenter pour un deuxième mandat. Tu veux que Saint-Roch, Saint-Sauveur ressemble à quoi?
Ah, je veux qu'on en soit fiers de notre centre-ville. Je veux que les gens viennent à Québec et qu'ils aillent visiter le centre-ville de Capitale-Nationale de la province de Québec. Je veux que les gens se disent, OK, on va aller super au restaurant avant d'aller voir une pièce de théâtre à l'aborder. Je veux aller voir le spectacle Aura pour la deuxième fois parce que ça commence début décembre. Je veux qu'il y ait de la vie, plus de murales, plus d'éclairage, de l'ambiance. Je veux plus de grands événements aussi.
On
plus
entend
de verdure.
Beaucoup de divertissement dans ce que tu dis. Il y a des contextes humains très importants. L'itinérance, la crise, la sécurité. Ça va être un enjeu, je pense, principal,
absolument,
au-delà du divertissement dans le secteur. 4 ans, c'est-tu assez pour renverser la vapeur actuelle?
Bien, d'abord, je veux dire que le divertissement puis les gens qu'on va amener dans le secteur vont bonifier l'expérience de tout le monde. Dans le sens où, on l'a bien vu là, cet été avec Saint-Roch XP. Saint-Roch est jam-pack de monde, il y a la mixité, tout le monde danse. Autant les personnes que tu croises des fois qui quêtent sur la rue, qui sont en train de danser dans des spectacles et qui allaient voir des shows. Tu sais, Saint-Roch, c'est ça.
Mais certains éprouvent un
malaise
de boire de l'alcool à côté d'une personne itinérante, par exemple. Ce qui est normal dans une ville, mais ça a été quand même apporté en disant « Ah, mon Dieu, donc, ben, le fun, aller là!
Mm-hmm. »
Mais crime, j'ai eu certains moments où je vais un malaise par l'itinérance qui est grandissante.
Ben, je pense qu'en fait, Saint-Roch, moi, ce que j'aime et que je vais toujours apprécier, c'est justement cette mixité-là. J'ai quand même choisi d'élever mon enfant dans ce secteur-là parce que je veux que mon enfant connaisse la mixité sociale qui fait une richesse en basse-ville. Il faut qu'on soit capable de mobiliser tous les acteurs pour justement continuer d'en faire une richesse, d'éviter le malaise, d'ouvrir le dialogue entre toutes les parties prenantes. Et,
c'est trop court, 4 ans?
4 ans, je pense, pour éradiquer, si on parle que de l'itinérance, ça ne sera pas assez pour faire tout ce qu'on souhaite, mais je vois qu'on va remonter la pente. T'sais, je pense qu'on a atteint le creux de vague. Et là, on repart dans l'autre sens. On a un plan Saint-Roch, 0-3 ans. On est allé consulter là, les acteurs du milieu. On a consulté les organismes, tout ça. Et là, dans les prochaines semaines, moi, je veux retourner vers les citoyens pour voir, bon, OK, dans le plan 0-3 ans, c'est quoi les priorités des citoyens. Moi, j'en ai des priorités, j'ai une petite idée de ce que je veux faire, où je veux aller, mais je vais quand même retourner vers les citoyens pour voir, bon, ben vous, gens qui habitez le secteur, par où vous pensez que ça passe en premier?
Il y a de cela 3 semaines, c'était Bruno Marchand qui était assis à ta place. Puis je lui ai posé la question, je dis, hey, Saint-Roch, là, auriez-vous voulu bouger plus vite? Puis il m'a admis, il dit oui, il dit, on aurait dû bouger plus vite. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez appris? T'es maintenant que c'est admis, puis que c'est fait, là, je veux pas frapper sur le clou de... Qu'est-ce que vous avez appris de ça, puis comment vous allez le travailler différemment?
Je pense que ça... Je vais utiliser... Je pense que ça a droppé vite. Ouais. La situation dans Saint-Roch s'est dégradée vraiment plus rapidement qu'on aurait pu se l'imaginer. Et ça n'a pas stoppé vite. Fait que il y a du travail à faire, mais là, tout le monde... Là, en ce moment, ce qu'on a appris dans les dernières semaines, ou que j'ai, en tout cas, que j'ai pu constater, c'est que tout le monde veut mettre l'épaule à la roue. T'sais, autant les grandes institutions que les commerçants, que les citoyens, tout le monde veut y travailler. Tout le monde veut que notre centre-ville rayonne, soit sécuritaire, soit accueillant, par des infrastructures de proximité accueillantes, par plus de logements, par des événements, pour être capable de retrouver un équilibre. Parce que l'écosystème de Saint-Roch a été déséquilibré dans les derniers mois.
Ouais, elle a fait déséquilibrer plus vers l'itinérance, la pauvreté, etc. Le manque de sécurité, etc.
Oui, puis tu sais, il y a aussi l'exode des travailleurs, les gens qui partent en télétravail, les tours à bureau se sont vidés. Tu sais, si on fait de la reconversion de tout ça en logement, ça va être des gens qui vont habiter le centre-ville. La construction, on a 1800 unités d'habitation qui vont être mises en chantier dans les prochains mois. C'est beaucoup plus de gens qui vont venir habiter chez nous et donc plus de gens pour s'approprier les espaces publics.
Consommer, justement, et aller
acheter local, encourager, exactement.
Hey, moi, là, je me suis donné une mission comme animateur de radio. Je veux parler pour la jeunesse.
Oui.
Bon, t'as 29 ans.
Oui.
Vous voulez quoi, les jeunes, avec votre ville? Non, mais que je fasse la promotion de vos pensées, là. Parce que des fois, là, j'entends, puis là, tu sais, je veux pas commencer à critiquer mes collègues de travail de d'autres stations de radio ou même ici, là, mais j'entends, ah, moi, j'ai absolument besoin de mon char. Ah, moi, je veux vivre en banlieue avec mon terrain. Ah, moi, je veux ci. Mais moi, là, je vous regarde aller, les jeunes, puis je dis, les autres, ils veulent rien de tout ça, puis c'est les autres qui vont en vivre la ville. Fait que pourquoi, moi, à radio, je dirais, elle me prend absolument mes deux chars? Tu comprends? Vous voulez quoi, là?
On veut. Ça dépend à qui, tu sais. Moi, ce que je veux, c'est ce que j'ai en ce moment. C'est ma petite maison centre-ville avec ma petite cour, puis le choix de me déplacer à pied, en vélo, en char, un jour en tramway ou en autobus, tu sais. Ce qu'on veut, c'est une vision d'avenir. On veut des options. On veut avoir du choix. Puis présentement, les jeunes, on n'en a pas tant que ça. On n'a pas vraiment le choix de pouvoir s'acheter une maison en ce moment.
Oui, OK. L'accès à la propriété.
L'accès à la propriété est de moins en moins un choix. Là, on souhaite élargir le programme Accès Famille pour les familles qui vont acheter leur première propriété, notamment aux maisons qui sont déjà bâties, ce qui va être bénéfique au centre-ville parce qu'il y a très peu de nouvelles constructions là, dans Saint-Roch et Saint-Sauveur, on s'entend. C'est la beauté de notre patrimoine. On veut du choix. Tu sais, d'avoir une voiture, pour certains, moi, je viens de la banlieue. Quand j'étais ado, avoir un char, c'était la liberté. Okay? Je le comprends vraiment, ça. Oui. Mais en vieillissant, je me rends compte que d'être obligé de prendre mon char, c'est vraiment pas un choix. Mm-hmm. Parce que t'es obligé d'être dans le trafic. T'es obligé de payer 10 000 $ par année. T'es obligé de mettre du gaz dedans. Fait que c'est vraiment des dépenses monstrueuses. Alors que le transport en commun peut venir... Un transport en commun efficace, là. Moi, si tu me dis que ça me prend 1h30 prendre un autobus pour me rendre à une destination qui m'en prendrait 30 minutes en char, c'est sûr que je le fais pas.
Ouais,
c'est pas un choix. On veut le choix. On veut une qualité de vie à la hauteur de ce que ceux avant nous ont eu. On est comme dans les premières générations à avoir moins que la génération d'avant.
Ouais, c'est vrai, ça.
C'est pas...
Puis là, nous autres, notre génération, Pascal, on veut tout, nous autres. Tu sais, moi, là, 46 ans, je vais avoir, j'ai eu ma qualité de vie, les jeunes, vous l'aurez pas, je vais la garder.
Tu es en train de prétendre qu'on est dans la même génération ou tu voulais juste parler de ta génération?
Moi, je parle de ma génération.
Mais je pense qu'on a été capable de rejoindre les jeunes dans notre discours parce que juste dans notre équipe, en ce moment, qui a été élue, on est 4 en bas de 30 ans.
Félicitations.
On est extrêmement fiers de ça. Ça a répondu. Puis j'ai hâte de voir les chiffres du taux de participation parce qu'on sait qu'en ce moment, le taux de participation a augmenté. Puis j'ai hâte de voir à quel point les jeunes se sont mobilisés parce que moi, je connais bien du monde dans mon entourage qui sont allés voter, mais qui ne seraient probablement pas allés si jamais pas été là ou tu sais.
Parlons-en de ça.
Ouais.
Vas-y.
Parce que plein de jeunes comme ça, c'est extraordinaire pour la politique.
Oui.
Nous autres, on est contents, on est deux fervents de politique. On voit qu'il y a une pérennité là-dedans. Par contre, ça peut amener à se faire regarder de haut, dans des gros dossiers. Là, on est en politique municipale. La politique municipale, c'est pas une petite affaire, c'est juste différent dans les dossiers du provincial puis du fédéral. Et c'est chaque jour entre les mains de ceux qui vont nous représenter. On a dit t'as 29.
Oui.
arriver devant des gestionnaires, arriver devant des gens qui ont du bagou, qui ont un CV comme celui de Jeff, qui a, puis devoir te tenir, devoir vouloir faire avancer tes dossiers, tout ça. Toi, on connaît un peu ton profil, là, on l'entend. J'ai l'impression que ce ne sera pas vraiment difficile de travailler en collaboration avec d'autres générations, mais 21, 22, 23, il y en a qui ont été élus début vingtaine. Comment est-ce qu'on voit les choses pour la suite? Ça peut être assez corsé.
Oui, bien, je pense que de plus en plus, on nous fait cette place-là. On veut être... Le maire veut nous entendre. Il veut savoir qu'est-ce qu'on a à dire. Et oui, il y en a qui ont des CV. Dans notre équipe, on a une équipe exceptionnelle, honnêtement. Là, chacun des candidats qui a été élu l'a pas volé et a un incroyable... Je vais mettre des backgrounds en, en bon français. Donc, on va être capable de tous se compléter. On a des profils très différents, puis on apprend les uns des autres. Tu sais, j'ai fait les 4 dernières années au cabinet du maire. Personnellement, c'est vrai que j'ai appris la machine à fonctionner comment, j'ai appris à travailler avec les fonctionnaires.
Il y a une question de personnalité aussi.
Il y a une question de personnalité, mais on va être capable de travailler tout le monde ensemble puis d'apporter notre vision. Puis ça fait du bien aussi autour de la table là, d'en avoir des jeunes comme moi qui sont capables de...
Si vous êtes là, on vous avait donné la possibilité d'être candidat, on y croit. Bruno Marchand le clame, l'aura dit. Il est monté sur scène avec ses deux enfants dans le rassemblement. Oui. Rarement, on voit ses enfants. Il y avait vraiment une place à ça. Auprès de la population, c'est une autre chose.
Moi, je me suis vraiment fait dire, honnêtement, en porte-à-porte, là, c'est très... En fait, je pense que ça m'est jamais arrivé de me faire critiquer sur mon âge. Au contraire, on m'a beaucoup dit de personnes âgées, « Ah, waouh, des jeunes en politique, ça fait du bien. »
Ah, je suis contente d'entendre ça.
Moi aussi, je suis contente d'entendre.
Enfin, c'est le fun. J'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de commentaires positifs par rapport au fait que j'étais jeune.
Il va falloir vous accompagner parce que, tu sais, arriver devant un gestionnaire, Jeff, tu le sais, tu as été gestionnaire.
Ben, moi, les jeunes, je leur disais tout, retourne là.
Adore! Mais t'en as vu d'autres.
Ben oui, oui, non, je comprends ce que tu veux dire.
Il y en a qui ont fait leur carrière avec une certaine forme de gestion. Il y a un choc des générations actuellement qui est assuré, donc encore plus fort en politique. Ouais. Faut se démerder là-dedans, veut
pas. Moi, je vois Catherine Fournier, qui a été élue, elle, mairesse d'une des plus grandes villes.
Qu'on avait entrevue hier, ici, à Boulevard Saint-Denis.
Ouais, mairesse d'une des plus grandes villes du Québec, à l'âge de 29 ans. J'ai 29 ans. Ouais. Et elle a mené ses 4 dernières années comme une championne. Elle est extraordinaire. Elle a gagné avec quoi? 88 % je pense. Ouais. Elle a mené sa ville avec courage. Elle a pris des décisions pour l'avenir aussi parce qu'en ce moment, au municipal, tu l'as dit, c'est pas le provincial. Les dossiers sont différents, mais ils sont pas moins importants. Puis tout le monde le dit, les prochaines années vont être difficiles. On a plusieurs crises à gérer, notamment crise environnementale, crise du logement, toutes les crises que vous pouvez penser. Mais c'est pas parce qu'elle est jeune qu'elle a pas eu le respect de la population, qu'elle a pas eu l'écoute de son administration et des médias. Fait que j'ai bon espoir pour la suite, pour les jeunes en politique.
Avant qu'on passe à notre invitation spéciale, Pascal, ma rue Saint-Vallier-Ouest, là, quand est-ce qu'elle est prête?
L'été prochain, c'est l'été la dernière, dernière saison de construction. Elle va être magnifique.
J'ai assez hâte.
Moi aussi.
J'ai hâte d'aller me promener là, j'ai hâte de voir les terrasses. Ah. On va manger d'ailleurs sur Saint-Vallier-Ouest.
Toi, tu y vas souvent. Là.
Non, mets le bas.
Ah oui, bon choix.
Mon Dieu,
jamais
excellent
allé
choix.
Encore.
Excellent choix.
Non, c'est ça.
Jamais décevant.
Ouais, genre, merci Val, ma blonde. Merci Val. Invitation spéciale pour Hélénie, son équipe. Pascal Sévé, vas-y donc.
Oui, puis là, Hélénie, c'est rien contre toi, mais j'ai l'impression qu'on s'attend à ce que quelqu'un qui s'appelle Bruno Marchand puisse venir faire son tour.
Oui, puis ça tombe bien, je pense qu'on a son attaché de presse qui est ici en studio derrière nous. Fait que vas-y, Pascal, je te laisse aller.
Je vais faire la promotion tout en le fixant, si je peux. Mais chose certaine, nous autres, on travaille sur un projet vraiment le fun depuis 2 ans, puis on décide de, faire part du ridicule. Et il y a une deuxième round du gala, Luttons contre la faim, profit de la bouchée généreuse qui va se donner. Ça va se donner entre, bien sûr, Yannick Marceau, l'arrogant, la gaspissette, tout ce que vous voulez. Donnez-lui l'insulte que vous souhaitez, il mérite. Le 21 novembre à 20h au Centre Horizon. Pour seulement 25 $ par billet ou 50 $ pour les billets VIP, dans les 2 premières rangées, le VIP, ben, t'as un show de lutte. 6 combats, dont une finale, 3-3. Steven Sullivan, Marceau et nul autre que Michel Plante.
Le champion de la NSPW.
J'adore la NSP.
Contre Nightmare Manson, Aiden Bright et Virginie Gagnon, qui est journaliste, animatrice et chroniqueuse à TVA. Elle est super en shape. Donc, on s'attend à ce qu'elle donne une bonne race à Yannick Marceau.
Elle a le dos large 2 fois comme l'ami.
On a 2 gérants d'estrade, Antonine Iaccarini dans l'équipe à Yannick, puis Denis Gravel comme gérant du trio adverse. Ça, c'est une invitation pour tout le monde. L'année passée, on a eu du fun comme pas possible. Vous le savez, la bouchée généreuse, c'est un organisme hyper important. Près d'ici 67 600 paniers alimentaires distribués chaque année. 5 000 personnes nourries hebdomadairement, dont 37 % sont des enfants. Et jusqu'à 1 600 familles aidées chaque semaine, uniquement avec cette banque alimentaire-là, donc avec la bouchée généreuse. Boulevard vous attend en grand nombre, puis on veut inviter le maire Marchand, on veut inviter ceux qui ont été élus au niveau de votre équipe, n'importe qui, à venir, parce que c'est un événement qui compte. Le point de vente.com, section NSPW pour un show pour une bonne cause.
Fait que là, moi, je retiens que Eleni a trips à NSPW. Absolument.
On a entendu un genre de...
Oui.
Michel Plante, mon lutteur préféré.
Il vend ses chandails le soir aussi.
Donc là, je veux pas mettre de la pression sur Eleni parce qu'elle commence en politique. Ça serait quand même pas moi à faire ça. Okay. Puis surtout pas au micro de boulevard parce que là, ça serait vraiment mal placé. Puis
en mettre plus, dans le coin, tu vas-tu venir en onde.
Puis en plus que moi, j'ai dit que je prenais soin de la jeunesse partielle. Fait que je veux vraiment, mais vraiment pas faire ça. Mais l'invitation est lancée pour la mère Marchand, là, via Eleni pour le 21 novembre.
Parce que tu vas le convaincre, Eleni, on retourne.
Ouais, c'est ça.
À quelle heure,
c'est 20h.
20h. Je suis en train de mettre ça dans mon agenda. Je vais essayer de me trouver une gardienne.
Parfait, excellent. Puis tu vas amener le maire avec nous autres?
Ah ben là, faut regarder avec Cédric, je m'en mêle pas. Parfait.
Alors salut Cédric, nous c'est Jeff et Pascal.
Ouais, bon, je vais y envoyer un petit texto en début d'après-midi pour lui rappeler l'invitation.
Pour la bonne cause.
Eleni Lepage, je suis tellement content que tu aies été élue dans Saint-Roch, Saint-Sauveur. Félicitations.
Merci.
Bravo pour ta belle campagne électorale positive. On t'invite n'importe quand pour parler du centre-ville. On y tient grandement. Je suis convaincu que vous allez réussir à faire de quoi de bon.
Merci. Merci beaucoup.
Fait plaisir. Pascal, on a déjà dépassé notre temps avec cette invitation-là, Bruno Marchand.
On s'excuse à Denis Gravel, il n'est pas là cette semaine.
Il n'est pas là, ben, c'est ça.
Mais on s'excuse à Véro.
Ah, c'est sûr qu'on peut encore parler, Denis n'est pas là. Ben, dans le forêt. Salut la gang, passez une belle journée. C'est le retour de Gravel sans Denis avec Véro, Audrey et Gab Marino qui s'en vient. Nous, on se parle demain midi. Salut!
Salut!
Jusqu'à 14h.